bon midi, j'espère que ça se passe bien pour vous en ce vendredi, en ce vendredi très frette, mesdames et messieurs.
Frisquet, c'est pas de bon terme.
Non, c'est frette aujourd'hui, puis depuis ce matin, mais chose certaine, l'hiver nous montre un peu de quel bois il chauffe, puis c'est bien correct, hein, on est au Québec, on doit apprécier nos quatre saisons, et un petit rappel pour vos pneus d'hiver. Si jamais vous en avez besoin, là, je pense qu'aujourd'hui...
Il commence à être tard pour faire des rappels. Ça devrait être fait.
Ça a commencé comme plus tard cette année. Plus tôt, le froid, la neige. Fait que les gens n'étaient pas habitués. Si tu te fies au garagiste, t'étais d'avance en octobre quand t'as appelé. Finalement, t'étais en retard. On salue la vente de livraison Amazon hier. Il y en a qui prenaient le clos puis qui n'étaient pas ferrés pour nos températures. Mais là, rendu le 5 décembre, je veux dire comme toi, mon cher Mathias... C'était le temps. Salut, Matt.
Salut, salut.
Merci d'être là ce midi.
Ça fait plaisir. On va avoir du fun à midi. On va avoir du fun.
Assurément. C'est sûr que c'est un peu contradictoire, mais moi, si la température en studio pouvait baisser un peu, je serais content.
On chante qu'il fait frais dehors. On chante qu'il fait chaud en dedans.
Non, honnêtement, le studio, je vais essayer de compenser pour la température extérieure. Puis je le dis, puis en même temps, je me sens mal pour nos travailleurs qui affrontent ce froid-là aujourd'hui. On dit moins 14 là, sur les prévisions Environnement Canada comme minimum aujourd'hui. Non, on est à moins 17 déjà et avec le facteur éolien, c'est moins 28 ou presque aujourd'hui. C'est sûr qu'avec le facteur éolien, il faut s'attendre à le sentir une fois tout nu face au vent. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, à moins que vous ayez eu inspiration du gars qui se frottait ses hôtes de char dans les dernières heures. Mais ça, rappelez-vous, c'est au criminel que ça s'est rendu. Fait qu'on le conseille à personne. Habillez-vous chaudement. C'est le conseil d'aujourd'hui. Puis Jeff n'est pas là. Jeff, c'est un bon papa. C'est un papa impliqué. C'est un gars qui aime justement prendre du temps avec ses gars dans leur passe-temps. Fait qu'il y a un petit tournoi de hockey aujourd'hui. Puis je pense que ça va s'achever, là. C'est ses dernières années de tournoi de hockey, tout ça. Donc, comme bien des parents québécois aujourd'hui, il y a eu à braver nos routes pour aller encourager les siens sur des bancs gelés d'aréna. Et où, ça, c'est si ils coachent pas, là.
Bien, ça fait des semaines chargées, veux pas, là. J'ai l'habitude de dire, Jeff, quand il prend congé, c'est pas vraiment un congé.
Non.
Puis c'est encore le cas. Puis je pense que là, on est quand même dans la période depuis novembre. Là. Novembre, début décembre, souvent, il y a beaucoup de tournois de hockey. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font leur semaine, qui arrivent à la fin de semaine, puis finalement, c'est pas trop relaxant parce qu'ils partent en tournoi toute la fin de semaine. Fait que force à vous, lâchez pas, on y arrive.
Quand on pense que le 2-3 ans là, au niveau de l'enfance est passé avec les enfants, puis qu'on va avoir un break, ben non, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais ça leur fait des super beaux souvenirs. Fait qu'on souhaite à tout le monde d'avoir un magnifique week-end. Profitez-en, ça passe vite avec les enfants. Puis à un moment donné, on cligne des yeux puis ils sont plus là. Puis la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de la place dans leur horaire entre leur petite blonde, leur chum de gars, leur ci, le ça, pour aller voir papa-maman. Mais c'est une denrée rare le temps que vous avez là. Hey Mathias, avant de passer à du bon temps avec notre invité, qui passe toujours très vite ce vendredi-là, il y a une nouvelle du jour et assurément quelque chose à surveiller dans les prochaines minutes.
Oui, tout d'abord, pour la nouvelle du jour, ben en fait, la nouvelle des trois dernières semaines, on n'a pas le choix de le dire. Puis il y en a qui sont peut-être écœurés d'en entendre parler, mais c'est parce que on a l'impression que chaque jour, il y a une tuée qui se rajoute sur cette crise là, mm-hmm. au Parti libéral du Québec. Et aujourd'hui, on apprend qu'une pétition réclamant la démission du chef Pablo Rodriguez circule présentement au sein des membres du parti. Donc, c'est un courriel auquel le bureau parlementaire du Journal de Québec a pu avoir accès. Donc, c'est vraiment une pétition en faveur de la démission de Pablo Rodriguez en tant que chef du Parti libéral du Québec. C'est ça que ça dit mot pour mot. On stipule l'intégrité du PLQ dans le courriel. En gros, les membres peuvent y répondre si jamais ils adhèrent à cette pétition-là. Pour l'instant, par contre, on ne connaît pas le nombre de signatures. Puis ça se rajoute au dernier scandale qu'il y avait eu également, alors que Pablo Rodriguez a exclu de son caucus Sona Lacoyanne Olivier, justement député de Chaumedé, en raison justement que la commissaire chercherait à déterminer si la députée a utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État mises à disposition du bureau de circonscription de son comté, justement. Donc, tout ça, on va continuer de suivre ça à midi, mais c'est ça. C'est une couche supplémentaire qui se rajoute sur les épaules du chef libéral
qui en a beaucoup à gérer ces temps-ci.
Ça lui glisse plus dessus ou encore sur sa coiffe comme ça glisserait sur le dos d'un canard. Là, honnêtement, Pablo Rodriguez commence à manger la vague de front. Là.
Oui, ben, il en mange de front depuis le début, j'ai le goût de dire. C'est pas nécessairement la meilleure gestion de crise.
Ben,
là,
honnêtement, au départ, moi, je le défendais. Puis après ça, on passe à tout ce qui se passe du côté des États-Unis. Mais je le défendais parce que je me disais, Colin, savais-tu vraiment ce qui se passait derrière? Mais là, il y a quand même un manque de leadership. Puis malheureusement, quand t'es chef d'un parti, il faut que t'assumes que si ça se passe mal au sein de ton parti, tu dois le prendre sur tes épaules. Puis là, il y a tellement de manquements, de manque de réponses, qu'il n'y a pas le choix. Il paie pour quelque chose que peut-être rien fait pour, mais parce qu'il est l'image du parti.
Il y a la responsabilité quand même. Je tiens à souligner également qu'il y a présentement le tirage au sort de la Coupe du monde qui a lieu. Donc, la Coupe du monde 2026 qui va se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Donc, Mark Carney qui est en visite à Washington justement pour l'occasion. Donc, on va savoir dans quel groupe le Canada va se trouver au cours des prochaines minutes / prochaines heures.
Il pourrait se retrouver dans un groupe où ça va être super favorable à nos athlètes, à nos joueurs de soccer, en fait, et que ça puisse faire en sorte que le Canada s'affiche comme étant exceptionnel lors de la Coupe du monde. Mais il peut aussi se ramasser contre les meilleurs, finalement, ou les sommités dans le classement.
Faut souligner comment que ça marche, en gros, le tirage au sort de la FIFA, c'est comme divisé en quatre groupes. Les forts, les moins forts, puis les poches. Ben, les poches, ça reste qui se rend la Coupe du monde, là, mais en gros, c'est quatre groupes en termes de force. Donc, on pige une équipe dans chacun de ces groupes-là pour former les différents groupes qui vont s'affronter là, dans la première ronde. Ce qui est intéressant, c'est étant donné que le Canada est pays hôte, ben on se retrouve dans le meilleur groupe quand même. Fait qu'on ne peut pas se retrouver face aux 9 meilleures équipes, mais ça reste qu'on pourrait quand même se retrouver au sein d'un bon groupe. On va suivre ça de près au cours de l'émission.
Oui, puis merci à l'immigration parce qu'on s'est nettement amélioré dans plusieurs... je le dis même pas en riant.
Non.
C'est des gens passionnés. Puis le soccer est souvent laissé pour compte, mais le soccer, c'est le sport le plus pratiqué au monde. C'est celui qui coûte le moins cher et qui fait en sorte qu'un peuple retrouve une identité. Fait quand tu t'en vas un peu dans le monde, tu vas au sein de classes plus défavorisées, de gens qui en arrachent, qui n'ont vraiment pas la même vie que nous. Tu vois à quel point c'est une flamme exceptionnelle que d'avoir le soccer et de pouvoir participer aussi à des championnats du type parce que c'est un moment où ils peuvent tous se rassembler autour de la même chose. C'est le ballon de soccer puis c'est la fierté de leur équipe. Et là, ils excellent. C'est tout le temps hyper émouvant à voir, à constater partout dans le monde. Puis je te parle pas des endroits où ils ont énormément d'argent puis que tu es capable de le faire. Mais dans des pays africains, là, c'est une de ces... Je pense que c'est un joyau, honnêtement, à constater à quel point ça change le mal de place pour ces gens-là puis qui ont juste ça sur quoi se rattacher. Et ils sont... tellement fiers de leurs athlètes. Puis quand je dis merci à l'immigration, c'est que tu vois souvent de ces athlètes-là qui ont immigré ici au Canada nous faire briller dans leur sport parce qu'ils prennent au sérieux. Donc, c'est quelque chose à considérer dans votre engouement ou pas par rapport au soccer. Vous allez voir que les Coupes du monde sont le fun pour ça. C'est d'une fierté exceptionnelle. Puis pour Mark Carney, c'est pas là-dedans qu'on va vérifier qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, mais oui, il est là, entre autres pour ça, mais il y a discussion avec Donald Trump aujourd'hui, puis on espère que ce qui va en ressortir, ça va être avantageux pour les tarifs. Hey, c'est vendredi, habituellement, on a Lambert Drainville et Farnell Morissette qui s'affrontent. Moi, je pense pas que c'est un affrontement. Je pense que c'est un débat d'idées qui est fort intéressant. Lambert a eu peur, je pense, cette semaine. Il s'est dit non, moi, la semaine passée, ça a brassé. Farnell, j'ai peur de lui. Je me présente pas aujourd'hui. On l'aura la semaine prochaine avec nous. Il est juste absent. Farnell, par contre, n'a pas quitté le bateau. Salut!
Salut! Je salue Lambert aussi.
Ben
et
oui.
Je confirme qu'il n'a aucunement peur de moi.
Oh non! Il veut toujours plus de bière,
ouais,
même avec
ouais,
toi.
Exactement, oui, c'est ça.
Tu passes un bon vendredi?
Ah, super belle journée, malgré le froid. Alors, j'ai une pensée pour ceux qui peuvent pas se réchauffer.
Non.
Aussi chaud qu'il fait dans le studio, je suis d'accord avec toi.
Non, ça c'est... Je comprends pas pourquoi on est dans le sud aujourd'hui, mais oui, à tous les travailleurs extérieurs, ce que j'aime dire, c'est graissez-vous de vaseline, mais je parle du visage pour couper le froid. Farnell, ça a été une semaine assez éprouvante au niveau de l'actualité parce que ça vient un peu jouer dans ce qui est sensible. Sensible pour nos droits, sensible pour ce qui nous représente en tant que nation, on va faire plaisir aux séparatistes, nation libre, où on peut faire des choix éclairés depuis des années. Je dis ça parce que chaque fois qu'on va parler d'avortement, il y a une sensibilisation qu'on doit faire sur tout ce qui a été fait pour se rendre au droit à l'avortement chez la femme. Et on va rejouer un peu dans cette parce que j'allais dire privilège, c'est pas un privilège, dans ce droit fondamental qui est de choisir si on veut continuer, en fait, de procréer ce qui est en train de se passer dans notre ventre ou pas. Là où c'est sensible, c'est qu'il y a l'apport religieux qui entre en ligne de compte, puis ça fait des années qu'on n'avait plus nécessairement ce débat-là, qui était un peu présent, mais plus dans des discussions de famille, hein, dans des discussions de groupes d'amis.
C'est ça, c'était pas dans le courant dominant de ce qu'on parlait en politique.
En se disant, ben non, on pourrait peut-être rejouer là-dedans. Mm. On parlait pas de ça du tout. Et là, avec le projet de constitution de la CAQ, l'avortement en a une grosse, grosse place, puis on veut discuter ensemble de pourquoi les groupes de droits des femmes s'y opposent. Farnell, tu tripes droit constitutionnel, tu tripes droit entre la politique et la société, t'en as un méchant gros projet, puis un méchant beau sujet de discussion actuellement avec ce qui se passe, entre autres avec le ministre Simon-Jolin Barrette.
Ouais, ben c'est intéressant, j'ai vu hier le ministre Simon-Jolin Barrette qui a fait un vidéo qui a publié sur les médias sociaux pour essayer de défendre l'ensemble de son projet. C'est un projet de loi qui est très controversé, qui est rejeté par à peu près l'unanimité de la classe, je dirais, académique, constitutionnelle à travers le Québec. Des gens qui, leur nom vous diront rien, là, mais moi, je les connais, tu sais, des sommités québécoises dans le droit constitutionnel qui disent tout simplement qu'il faut retirer ce projet de loi-là dans son ensemble, ce qui est très, très rare comme sortie aussi forte.
On ne veut pas faire des modifications. On veut
le retirer au complet. Oui, mais ça, c'est peut-être un sujet un peu séparé. On veut le retirer parce que si c'est une constitution qui ne vient pas du peuple, si c'est une constitution qui a essentiellement été écrite par un ministre qui a peut-être consulté quelques individus, on ne sait pas trop qui, derrière des portes fermées, ben ça ne sera jamais un document qui vient des Québécois. Et il y a plusieurs risques là-dessus, mais un des risques, c'est qu'il y a peut-être des angles morts, des choses que la petite garde rapprochée d'individus qui ont écrit le document auxquels ils n'ont pas pensé. Puis je pense que la question de l'avortement, c'est peut-être ça. Mettons en contexte, là. Ce qu'il y a dans le projet de loi de constitution de Simon-Jolin Barrette, c'est qu'il y a une ligne dans ce qui deviendrait théoriquement la constitution québécoise, comme de quoi l'État québécois est obligé de toujours assurer l'accès, ou l'État québécois est obligé de défendre l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, à l'avortement. Ce qui semble une bonne chose. Je veux dire, a priori, quelqu'un peut dire « Oui, excellent, on veut que l'État, le gouvernement, soit chargé de faire ça. » Et alors, pourquoi les groupes de droits de femmes s'y opposent? C'est très compliqué, mais le consensus qui s'est développé au Canada, c'est que la meilleure loi sur l'avortement, c'est aucune loi sur l'avortement. Puis la raison pour ça, c'est comme, par exemple, il n'y a aucune loi protection constitutionnelle de votre droit d'aller chez le dentiste. Parce qu'on n'en a pas de besoin. Parce que ça, c'est réellement pas remis en question.
Mettons, vous êtes ni obligé ni empêché.
C'est ça. C'est la liberté. Résume? La liberté individuelle, vous faites ce que vous voulez avec vos dents. Ben, pourquoi pas faire ce que vous voulez avec vos corps? Même si le principe, c'est de dire que l'État doit protéger l'accès à l'avortement, le fait qu'on rentre ça maintenant dans un texte législatif, ça veut dire qu'on est en train d'affirmer que c'est une question légale et donc une question judiciarisable.
Alors, si on souhaite encourager l'accès à l'avortement, ben on le fait au niveau judiciaire, mais ça, puis en cours, puis sur des lois, puis sur des papiers. Mais l'inverse pourrait arriver aussi parce qu'on est en train de légaliser la chose.
C'est ça. Alors, si, par exemple, il y a un article de loi qui dit que l'État garantit l'accès à l'avortement, ben cet article de loi-là peut être interprété par la suite. Ça veut dire, oui, l'État garantit l'accès à l'avortement, mais seulement si, ou seulement dans certaines situations, ou seulement dans un certain laps de temps. On garantit encore le droit à l'avortement, oui, mais seulement. Et la présence d'un article de loi devient un point d'accrochage potentiel pour des groupes anti-avortement de vouloir légiférer autour du texte exact, des mots exacts, tandis que s'il n'y a pas de loi, c'est le principe de la liberté absolue. Une autre chose que ça fait, puis ça, c'est là on rentre dans la technicalité constitutionnelle, alors je ne vais pas aller trop loin, mais essentiellement, depuis 1993, c'est établi que la question de l'avortement est une question qui relève exclusivement de la compétence fédérale, c'est-à-dire du droit criminel. C'est pour ça que c'est une décision sur le code criminel en 1988 par la Cour suprême qui a rendu le droit à l'avortement garanti par la Constitution. Quelques années plus tard, en Nouvelle-Écosse, en 1993, il y a eu une tentative de faire une loi provinciale qui rendrait essentiellement l'accès à l'avortement beaucoup plus restreint, voire presque impossible, en Nouvelle-Écosse. Et la Cour suprême a été encore une fois chargée de la décision et a décidé que ce que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait essayé de faire, c'était de faire du droit criminel pour cacher le droit criminel derrière une législation sur la santé.
Je suis sûr que tu as perdu la moitié
des droits. Oui, alors l'idée de ça, c'est que présentement, là, selon la Cour suprême, selon la Constitution, les provinces n'ont pas le droit de faire des lois qui touchent l'avortement. Point barre.
On fait quelque chose pour le pays,
ouais,
mais on ne va pas aller fragmenter, selon la province, le droit de choisir par rapport à l'avortement.
C'est ça. Les provinces canadiennes ne peuvent pas faire de loi qui empêche les personnes, les femmes, d'avoir accès à l'avortement.
On peut-tu faire un parallèle, par exemple, aux États-Unis, avec le pays en entier, ouais, puis les États qui peuvent un peu choisir ce qu'ils souhaitent par rapport à cette question-là?
C'est ça. C'est la situation exactement inverse de ce qui se passe aux États-Unis, où récemment, la Cour suprême des États-Unis a dit que le gouvernement fédéral ne pouvait pas faire de loi sur l'accès à l'avortement. C'est une question strictement des États. Bien, au Canada, on a la situation inverse et on veut la protéger. Alors, si le gouvernement du Québec adopte une loi qui semble revenir ou qui semble aller chercher l'avortement dans le giron provincial, bien là, ça veut dire qu'au lieu de juste être obligé de défendre le droit à l'avortement au niveau fédéral, il va aussi falloir le défendre au niveau provincial. Ça double les points d'attaque potentiels futurs au droit à l'avortement et ça double le travail de défense sur les deux niveaux, le niveau fédéral et le niveau provincial, si ça devient une question provinciale. Et c'est en gros pour ça que présentement, les groupes de femmes, même si sur papier, ça a l'air d'être un texte de loi qui veut protéger le droit à l'avortement, les groupes de défense des droits des femmes s'y opposent parce que c'est une porte d'accès de plus pour éventuellement restreindre le droit à l'avortement.
Tellement intéressant que tu nous l'amènes comme ça, tu nous le fais comprendre de cette manière-là, parce qu'on peut se dire finalement que si on fait parallèle avec le projet de santé actuellement, le ministre Dubé, clairement, il y avait des angles morts qu'il n'a pas vu venir avec sa loi 2 et il voyait un peu le branle-bas de combat que ça fait, puis des gens qui sortent un peu de partout en disant « vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, ça va affaiblir finalement le système de santé, tout ça ». Alors, le projet de loi de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, a été consultation fermée, comme tu l'as dit, avec certaines personnes. Il y a probablement des angles morts aussi. Donc, sur deux pans, on dit « ne faites pas ça parce qu'il y a fort probablement des angles morts, ça pourrait amener un branle-bas de combat ». Puis de l'autre côté, ça fait en sorte que ça devienne une question juridique. Donc, possiblement en cours, c'est légal, dans la légalité. Alors, ça pourrait amener des contestations au niveau provincial et pas juste au niveau fédéral. Simon Jolin-Barrette se défend comment là-dedans, lui, d'avoir touché à ça puis d'avoir voulu en faire un projet de loi?
Jusqu'à date, à ma connaissance, il n'y a pas eu de sortie très claire là-dessus.
C'est le problème actuel.
Oui. Bon, là, soyons charitables envers lui. Le projet de loi commence, a commencé cette semaine, les consultations en commission parlementaire. Alors, ce n'est pas une réelle consultation pan-québécoise. Là, c'est juste les personnes qui peuvent se déplacer à l'Assemblée nationale, qui peuvent déposer un mémoire, qui vont être invitées à présenter leur point de vue. Mais ça a commencé cette semaine. Peut-être qu'à mesure que ça évolue, après tout l'ensemble de la commission parlementaire et ensuite les relectures à l'Assemblée nationale, peut-être que cet article-là va être retiré. Mais présentement, on ne semble pas avoir d'indication là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Si je me trompe, je demande immédiatement pardon, mais j'ai quand même cherché un peu. J'en ai pas vu d'indication claire comme de quoi, oui, on allait retirer ça. On reconnaît qu'il y a eu erreur. Et puis, ça m'inquiète un peu pour, de un, le droit à l'accès à l'avortement, qui est un droit fondamental qui n'est jamais acquis. Et de deux, ben, l'ensemble, c'est quoi d'autre comme angle mort dans ce projet de loi-là? C'est un projet de loi qui ne définit même pas qu'on va avoir des élections au Québec. Quand pourtant, c'est supposé être un document constitutionnel autonomiste du Québec. Quand le gouvernement essaye de bouger trop vite, comme il le fait présentement, je crois, ça mène à des erreurs qui, je pense, ne sont pas de méchanceté. Mm-hmm. C'est juste quand on bouge trop vite puis on n'inclut pas assez de points de vue, on manque des affaires.
Mais le problème, c'est qu'il commence à manquer de temps pour le gouvernement Legault. Il reste une année, fait qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent faire, ben, ils rentrent dans cette année-là puis ils vont le plus rapidement possible. Puis comme tu l'as dit, ben, ça crée plusieurs points morts, point d'angle mort que pourrait être avoir des effets très négatifs pour la province.
Ben, s'il voulait en faire un projet électoral, ce serait une chose. Là, j'ai pas cette impression-là parce que ça semble même pas être quelque chose qui est poussé de l'avant autant de François Legault que de Simon Jolin-Barrette.
Ça, c'est fin de non-recevoir absolu en faire un projet électoral ou même référendaire présentement.
Ce serait se tuer politiquement parlant aussi. Là, de manière, ils en ont assez dans leurs assiettes. Mais le simple fait d'amener ça sur la table, c'est problématique. Puis tu vois un peu les réponses à tout ça. Moi, j'étais contente de t'avoir là-dessus, Farnell, parce que les gens ne comprenaient pas, effectivement. Ils trouvaient ça ironique que des groupes de femmes à la défense du droit à l'avortement s'opposaient à ce projet-là. Avec tes explications, on comprend réellement ce qui se passe puis quelles sont les discussions de ces gens-là qui s'y opposent. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu cette semaine. Léa Clermont-Dion qui a commencé à se prononcer sur une couple de sujets. Je vais faire entendre ce qu'elle a dit récemment, en fait. Par rapport au groupe masculiniste, Léa Clermont-Dion, vous la connaissez. Elle a souvent pris la parole dans les dernières années. Elle a fait partie des Carrés Rouges autrefois, on l'a connue comme ça. Mais elle a quand même décidé d'être militante à certains égards. C'est une féministe. Pour certains, c'est une féministe enragée. Mais moi, je veux dire, elle amène des sujets hyper importants dans la discussion en ce moment. Fait que si même vous la qualifiez de féministe enragée, s'il vous plaît, écoutez au moins cette prise de parole-là. Puis on revient avec le commentaire de Fanny Maurice après.
Discours masculinistes auprès de la jeunesse. Des discours violents qui sont devenus mainstream. Les femmes appartiennent aux hommes. Les femmes aiment être dominées. Je ne suis pas un violeur, mais j'aime l'idée de pouvoir faire ce que je veux avec les femmes. Women belong to men, des citations qui existent. Au Royaume-Uni, on sait que 23 % des garçons de 15 à 16 ans trouvent que les propos d'Andrew Tate sont positifs. Et les jeunes pères, donc de 25 à 34 ans, considèrent à 56 % que les propos d'Andrew Tate sont positifs. Il faut rappeler qu'Andrew Tate a affirmé après les élections présidentielles des États-Unis qu'il serait peut-être valable de retirer le droit de vote des femmes. Ce n'est pas un phénomène qui est marginal, c'est un phénomène qui se normalise. Les plateformes numériques sont donc devenues des vecteurs centraux de diffusion de recrutement des jeunes. Une étude de Baker et Jing démontre justement que les jeunes qui consomment des contenus en ligne, des vidéos, arrivent à quelques clics finalement, à 71 % à des discours masculinistes et toxiques. Il y a des impacts sur les croyances des jeunes d'être à ce point tel exposés à des discours masculinistes. Les recherches menées dans les écoles secondaires montréalaises, comme celle faite par Diane Mikouni, montrent que 34 % des élèves adhèrent à au moins un des énoncés suivants. Les garçons devraient contrôler les personnes avec lesquelles leurs copines interagissent. Les filles disent souvent non, uniquement pour ne pas paraître faciles. Selon une autre étude qui a été menée par la chaire sur les violences sexistes et sexuelles de l'UQAM, dirigée par Manon Bergeron, 75 % des jeunes de 15 à 25 ans adhèrent à des mythes qui mettent en doute la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Ces discours sont axés sur plusieurs mécanismes. La domination et le contrôle, l'hyper-virilité, le rejet des émotions.
Vous voyez un petit peu la prise de parole de Léa Clermont-Dion. J'aimerais ça qu'on oublie qui parle, parce que je sais que des fois, une personnalité publique ou une personnalité qui a pris beaucoup la parole, qui a peut-être dérangé certaines personnes, fait en sorte qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on arrête d'écouter quoi que ce soit. Moi, je veux qu'on se concentre sur ce qu'elle a affirmé selon les études qu'elle a exposées dans sa prise de parole. Puis sortons aussi du discours féministe, masculiniste et tout ça. Parlons de ce qui est important là-dedans. C'est le manque d'ouverture face à l'autre, le désir de contrôle, puis le retour à... peut-être des idées un peu fermées là, quant à la position et aussi la présence de l'autre dans notre société. Puis certains diront le rôle que devrait jouer un homme puis le rôle que devrait jouer une femme dans la société. Tu prends tout ça, puis c'est probablement une des choses qui fait le plus réagir cette année. On a vu les mâles alpha, le documentaire, ça allait de partout. On se pose la question, hey, en parler finalement, c'est-tu faire de la publicité? Puis en même temps, si t'en parles pas, ça prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, les jeunes en parlent entre eux. C'est un peu fermer les yeux sur des phénomènes qui sont existants, puis tant qu'on ne les aborde pas puis qu'on ne discute pas, ben il n'y a pas vraiment de choc des idées dans ce cas-ci. Farnell, tu penses quoi, toi, de cet équilibre-là qui est très difficile à avoir entre le fait d'en jaser, d'en discuter et d'en faire de la promotion?
Je pense qu'on se heurte à une limite de ce qu'on est capable de faire comme communication entre générations, particulièrement avec les jeunes, par des médias de masse et par des médias sociaux. Parce que n'importe qui a déjà travaillé avec des jeunes, puis là, par jeunes, je parle d'adolescents, disons, OK? C'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous une capacité et je dirais tous une tendance très différente de réagir à des personnes qu'ils voient comme étant dans une position d'autorité, que ce soit autorité légale, politique, morale, peu importe. Il y a des jeunes, des ados qui réagissent très bien à des messages du genre... Comme ce que Mme Clermont-Dion fait présentement, de dire ce genre de comportement-là, il est inacceptable, on devrait donner des meilleurs exemples. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, et c'est la nature des adolescents, de vouloir se rebeller contre les autorités parce que ça, c'est une partie naturelle de faire sa propre identité. Alors, quand eux reçoivent exactement le même message, eux vont plutôt avoir tendance à dire « Ah, ben ça m'intéresse, ça, je vais en savoir plus. C'est qui les masculinistes? Qu'est-ce qu'ils veulent? » Et cet équilibre-là, il est très difficile à trouver et surtout, il n'y a pas un seul point parfait qui va s'appliquer parfaitement à tous les jeunes, particulièrement les jeunes hommes à travers la société. Alors moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, là, c'est si vous, comme moi, vous êtes choqués par la montée de propos profondément déshumanisants envers les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, tout ça, et vous êtes, disons, vous avez fin vingtaine, trentaine, quarantaine, peut-être un peu plus, et vous êtes peu importe, si vous êtes un homme et vous connaissez un ado dans votre vie, parlez-y. Un à un. Puis vous êtes, tu sais, on est tous, n'importe qui a l'intelligence moyenne minimale est capable de juger c'est quoi la bonne approche avec un ado qui connaît dans sa vie pour savoir, tu sais, à quel point est-ce que je devrais prendre une approche plutôt paternaliste, plutôt autoritaire, à quel point est-ce que ça devrait être une discussion d'égal à égal. Vous êtes capable de le faire et vous êtes capable de transmettre vos valeurs un à un. Avant qu'on ait les médias de masse, c'était comme ça que les valeurs se transmettaient, de façon personnalisée, d'une personne à une personne, en fonction de la relation spécifique entre deux humains, plutôt qu'essayer d'avoir un message qui essaie de trouver un équilibre qui est peut-être impossible à trouver entre la bonne façon d'aborder un sujet sans y apporter de la publicité, sans en créer une fascination envers nos jeunes.
Parce que moi, j'en fais une corrélation entre ce qu'on vient de dire par rapport à où l'équilibre entre parler d'un phénomène ou en faire de la publicité à ce qu'on est en train de faire avec Simon-Jolin Barrette et le projet de loi sur l'avortement, parce que c'est comme si le gouvernement s'était dit « Bien là, ça déborde tellement, tout le monde est en train de jaser, tout le monde est en train de se chicaner là-dessus, on veut pas que ça bouge, nous, au Québec, on tient nos valeurs occidentales, fait qu'on va en faire un projet de loi. » Puis c'est là aussi que peut-être le problème est remarqué du fait que crime, on en parle-tu assez? On a-tu encore un devoir de conscience quant à donner un peu nos valeurs à nos enfants? Est-ce qu'on a échappé quelque chose? Est-ce qu'on met ça tout entre les mains de l'école? Est-ce que l'école y arrive avec le fameux cours d'éthique aussi? Est-ce qu'on endoctrine nos enfants d'une manière ou d'une autre? On les laisse avoir la libre pensée? Mais le gouvernement, on dirait, voulait travailler en amont sur ce courant-là, peut-être, là, qui est revoir le droit à l'avortement et se dire, ben nous, on va le figer dans le temps. Mais c'est ironique de penser que finalement, il se tire plus dans le pied quand on t'écoute aussi en disant, on devrait pas toucher à ça, on devrait ne pas avoir de loi quant au droit à l'avortement parce que c'est là, finalement, où on crée plus de négatif dans tout ça. Moi, je voyais une corrélation directe avec le discours de Mme Clermont-Dion parce que je me disais, crime, faut en parler, mais est-ce qu'on travaille en amont sur ces phénomènes-là ou on revient à Chaumière puis on revient à ce que nous, on peut faire en tant qu'élément actif de la société, toi, Farnell, moi, Pascal, toi, Mathias, avec les gens qui nous entourent?
Ouais, je pense que c'est intéressant parce que les lois en particulier sont l'outil ultime de la taille unique, le one size fits all. T'sais, c'est la même loi pour tout le monde et on veut que ce soit ça. Mais ça veut dire qu'il y a des situations où, par exemple, transmettre ses valeurs, ça se fait pas de taille unique, ça se fait pas par un cours uniforme pour tout le monde. Il y a certaines choses qu'on peut certainement partager collectivement, mais il faut toujours qu'on ait de la place pour reconnaître qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, qui n'ont pas deux ensembles de valeurs identiques, et on ne peut pas les approcher, leur partager nos valeurs de la même façon.
Oui, puis en plus, bien, avec tout ce qui nous dépasse sur le web en ce moment, est-ce que le cours va toujours être adapté? Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça entre les mains de l'école et de l'État? La réponse, probablement, c'est non dans ce cas-ci. Paul Saint-Pierre Plamondon fait beaucoup jaser. Après la polémique Pablo Rodriguez et le Parti libéral, Paul Saint-Pierre Plamondon ont réussi à faire jaser de son parti, pas nécessairement de la bonne manière en ce moment. Ça dépend, t'es dans quel clan. Ce matin, devant mes propres yeux et en ayant les oreilles toutes déployées, j'avais un Yannick Marceau d'un bord, un Maxime Larouche de l'autre. Et ce qui se passait, c'était un débat entre un souverainiste pur et dur, de fière allure, qui se dit peu importe qui est à la tête d'un parti qui veut faire du Québec un pays, moi, je vais suivre. T'avais un Yannick qui disait, ouais, là, moi, attention, je vais regarder qui veut faire ça, je vais regarder aussi quel avantage économique ça va avoir, est-ce qu'elle va se tirer dans le pied. C'est vraiment un échange intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours intransigeant et surtout transparent sur sa façon de faire de la politique. Cette fois-ci, il a accusé certaines personnalités artistiques d'avoir un manque de loyauté envers le Québec en entier, puis aussi la protection de la langue française avec Miller. On a pensé quoi cette semaine?
Je pense qu'on reste dans la thématique de l'approche de taille unique. T'sais, c'est l'idée qu'il y a une seule bonne façon de démontrer sa loyauté envers le peuple québécois et que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui en est l'arbitre.
Oui.
J'ai un peu de misère avec ça.
T'as trouvé qu'il était trop, justement, impliqués dans ce dossier-là?
Non, qu'ils soient impliqués, c'est parfaitement normal. Le rôle d'un politicien, c'est pas simplement de recevoir l'opinion du public et d'en être un vecteur. Je pense que les politiciens ont un rôle de prendre une certaine charge, un certain leadership. Le danger vient quand on commence à mêler les deux rôles. Quand on a un politicien qui commence à mélanger comment lui, il croit que les Québécois devraient être et comment il affirme qu'ils le sont pour faire une espèce de situation où il s'autoproclame La volonté, les intérêts du Québec.
Et puis là, si tu ne vas pas avec moi,
C'est ça. Si tu n'es pas de mon bord, tu n'es pas un vrai bon Québécois. Je veux dire, comment on est supposé avoir une politique, une démocratie où la dissidence est permise quand le désaccord équivaut à une absence de loyauté envers le peuple québécois, envers la culture francophone, qui sont pour plusieurs personnes indissociable, oui, avec bonne raison, ça devient très difficile après ça, vouloir avoir un débat d'idées si le risque est que si t'es pas du bord de la personne qui a le plus gros micro, ben t'es plus un vrai bon Québécois. Ça devient tough. C'est l'effet à ça, j'ai l'impression, il y a probablement beaucoup d'artistes qui vont regarder ça aller et dire « Ouais, peut-être que je vais juste plus parler maintenant. » Puis ça, c'est pas à l'avantage de personne.
Je vais me permettre envoler lyrique autre que sur ce qui est politique en ce moment, mais tu sais, Mark Miller, 48 heures après avoir été nommé ministre de la Culture, même moins de 48 heures, il a fait scandale. On l'a pointé du doigt comme n'étant pas la bonne personne pour représenter la culture, puis sincèrement, qui donnait pas assez de temps et d'importance à celle qui est québécoise puis à la langue française. Il y a des artistes subventionnés qui ont dit bonjour, félicitations, on est fiers de votre élection à titre de ministre de la Culture, et c'est ça qui a choqué Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Pichet a dit, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a raison de s'insurger, mais devrait s'excuser. C'est quoi la différence?
Ben, j'ai vu, si je me trompe pas, il y a pas tout à fait une heure, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait un message sur les médias sociaux qui est une espèce d'excuse pour excuse. Oui. Là. Moi, les politiciens qui font des excuses, genre « je m'excuse si vous avez été offusqué », c'est pas une excuse.
C'est ce qu'il a
dit. Ça. C'est dans le fond, c'est de remettre la faute sur la personne qui est pas d'accord avec lui. Monsieur Plamondon est un juriste chevronné. Il a fait la même école de droit que moi, là. Je veux dire, c'est drôle quand je l'entends parler, j'entends encore mes anciens collègues à l'école. Il comprend la force et l'importance des mots et le pouvoir de la rhétorique, j'en suis persuadé. Et parler d'absence de loyauté, c'est de la rhétorique très, très lourde. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. J'espère, en tout cas, que le mot a été choisi. S'il l'est pas, c'est peut-être un peu pire. Je trouve que, tu sais, faire des appels à des excuses, c'est le genre de choses qui devient tellement commun qu'on en perd un peu la valeur du sens. Puis ça a aucune valeur, moi, tout seul ici, dans un studio de radio qui dit ça. Mais je pense qu'au lieu de parler d'excuses, il y a peut-être un devoir de faire un peu plus attention aux mots qu'on utilise, surtout quand on parle des gens qui portent réellement, jour après jour, souvent de très petits pains pour très peu d'argent, qui vivent dans le froid, dans la misère, souvent, j'exagère pas tant que ça, les gens qui portent réellement notre culture, leur dire qu'ils ont manqué de loyauté pour avoir salué la nomination d'un politicien, je trouve que c'est un peu grave. Là, je comprends M. Plamondon disait « Ah non, je visais seulement que quelques individus », mais ces individus-là sont des représentants qui ont un mandat de représenter les artistes qui sont membres de leurs associations aussi. Alors, l'insulte, je crois, était indirectement plus large que ce que M. Plamondon avait peut-être l'intention de faire.
Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on est en train de se rendre compte que l'émotion de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Ça arrive tellement souvent qu'il s'emporte sur des critiques ou qu'il s'emporte dans la façon qu'il critique d'autres personnes. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que sa base l'aime
aussi. Ce matin, je disais, on a tous le défaut de notre qualité ou la qualité de notre défaut, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, une affaire que moi, j'ai toujours dit félicitations là, à ce politicien-là, c'est avant même qu'on soit en période électorale, le gars, si on lui posait la question « Voulez-vous ramener un référendum? », la réponse était oui.
Il ne pourrait pas être plus clair avec ça. Il l'est encore. Il a gardé la ligne. C'est vrai.
Il a toujours été transparent. Puis en 2025, il en manque de transparence en politique. Lui, il a décidé de prendre sa ligne, de l'appliquer, puis pas juste après avoir été élu, par exemple, si jamais ça arrive puis que les intentions de vote vont de soi pour la suite des choses. Mais effectivement, il est même intransigeant quand tu viens qu'à y parler. Est-ce que ça peut coûter cher en politique? Probablement. En ce moment, Paul Saint-Pierre Plamondon, utilise sa qualité comme un défaut, puis en même temps, on ne peut pas vraiment lui reprocher parce qu'on a clairement l'heure juste avec lui. Mais en dernier lieu, ce que ça peut mener aussi, c'est de le faire mal paraître parce qu'il n'est pas rassembleur. Et ce qu'il souhaite, c'est rassembler les gens au Québec pour peut-être en faire un pays. C'est son souhait. C'est un peu ironique.
C'est surtout, tu sais, il y a un adage en politique qui est, c'est un adage en anglais, je vais le traduire, mais les amis s'additionnent, les opposants se multiplient. Alors, il faut faire attention là-dessus. Et la position de M. Plamondon, ça semble être, il dit se défendre, mais j'ai l'impression que c'est on réagit aux critiques par une attaque. Chaque critique, une attaque en réponse, attaque en réponse. Puis juste dans les derniers mois, je veux dire, si on parle de gens avec qui M. Plamondon s'est montré, je dirais, agressif, je ne veux pas dire hostile, mais disons fort.
C'est toi qui choisis tes mots.
Ben c'est ça, tu sais, il y a eu, je veux dire, juste dans les derniers mois, il y a eu Lucien Bouchard, Yasmine Albelfadel, Régis Labeaume, l'ensemble de la presse et son
l'ensemble.
C'est l'ensemble, ben je dis l'organisme la presse, pas la presse dans son ensemble.
On peut nommer tous les médias.
Dont François Cardinal. Bon, là, il y a eu les artistes et plus récemment Radio-Canada. Je veux dire, il va rester qui quand il va avoir besoin d'alliés, quand il va avoir besoin de former une réelle coalition pour former, selon lui, un gouvernement pour ensuite un référendum?
Ce sera-t-il l'arrivée d'un manque de transparence parce qu'il n'y aura pas le choix de s'excuser mais de ne pas le penser officiellement?
Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que présentement, il y a peut-être un sentiment à l'intérieur de la garde rapprochée au Parti québécois qui se dit « on est premier dans les sondages, donc tout va bien ». Mais je pense que c'est peut-être en partie parce que présentement, on n'est pas en élection. L'attention des Québécois est ailleurs. Alors, une fois que l'attention va se retourner vers ça, c'est là qu'on va revoir tout ce qui se passe et dire « Attends une minute, là, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on parle? » Et je pense que ça risque d'être très surprenant pour beaucoup de personnes.
Mais si, ce qui se pourrait aussi, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, présentement, il a de la crédibilité parce que, justement, il a une opinion forte puis il maintient son opinion. Donc, il ne se contredit pas. Ce qui fait en sorte que, présentement, étant donné qu'il n'y a aucun autre chef que la majorité des Québécois considèrent crédible, il gagne énormément de capital politique pour ça. Fait que peut-être que ça va l'aider pour son élection. Mais effectivement, une fois rendu au référendum, là que c'est le temps de rassembler, que c'est pas juste convaincre le monde que tu es le chef le plus crédible, mais convaincre le monde que c'est une bonne idée, puis le monde de tout type que c'est une bonne idée, peut-être que ça va être plus difficile, justement.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il soit rassembleur dès maintenant, puis pas en échapper d'autres, parce que ça se construit sur du long terme, là.
Oui, ça se construit sur du long terme, et je veux dire, je désolé pour le cliché, là, mais les Québécois, on se souvient. On a la mémoire longue pour ce genre de choses-là. Ben, je veux dire, les individus qui vont avoir été écorchés par M. Plamondon vont s'en souvenir.
T'as raison.
Et ça, c'est la base d'une coalition dont n'importe quel politicien a besoin pour former un gouvernement. Tu ne peux pas former un gouvernement sur ta personnalité et sur ta popularité individuelle à toi. Il faut que tu ailles chercher les autres acteurs de la société civile qui, eux aussi, se font écouter par le public. Et à mesure de se tourner contre ces gens-là, à montrer les crocs à la moindre critique, ça va être difficile de rallier ce monde-là au moment où on en a besoin.
Bien, clairement, François Legault nous le démontre cette année.
Exactement.
J'avais l'impression de t'entendre durant une analyse de François Legault, puis à quel point c'est François Legault Inc. en ce moment à la CAQ. Puis malheureusement, c'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le parti, puis s'il va être si ça va être une pérennité, en fait, pour cette formation politique-là. Hey, Farnes, c'était bien fun de t'avoir vendredi. Merci d'être passé.
Toujours agréable. Merci de m'inviter.
De la semaine prochaine, on retrouve Farnel aux côtés de Lambert Drainville puis certainement Jean-François Fortin qui est juste dans un tournoi avec son enfant parce que c'est un bon
congé.
Père impliqué. Ben, pas tant parce que c'est de la peau quand même.
Un congé
sans qu'il travaille pas mal plus fort que nous présentement.
Oui, aussi, je pense, nous autres, on prend presque une bière autour d'une table. Hey, bon vendredi, frisquet, frette, Farnel.
Merci, bonne journée à tout le monde.
Comme tu l'as dit, c'est vendredi, la circulation commence tôt vendredi.
Déjà, nous, on était tellement dans une belle matinée ce matin, il n'y avait presque rien, un incident. Là, puis un autre, il y en avait effectivement juste deux. Par contre, effectivement, pour le retour à la maison, habituellement, midi 38, on est pas mal là.
Oui, et puis ça commence, ça, c'est encore léger dans plusieurs secteurs légers. Il y a des bons ralentissements, mais rien par rapport à ce que vous allez avoir à partir de 2h tout à l'heure. Donc, je commence sur Laurentienne, direction sud, en arrivant sur Capitale, ralentissement à prévoir. Également, Capitale, direction ouest, entre Henri-Bourassa et Laurentienne, justement, il y a le ralentissement habituel qui commence tranquillement, pas vite, à voir le jour. Capitale, direction est, cette fois-ci, c'est entre Pierre-Bertrand et un peu après Robert-Bourassa qui a un ralentissement à prévoir dans le secteur. Robert-Bourassa, direction sud, en arrivant sur le Bourgneuf, ralentissement à la lumière également. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Courte pause, on fait un bulletin de nouvelles au retour et Irénée Rutema sera avec nous aussi. On va aller parler un peu de politique municipale. On n'a pas le choix.
Ça brasse.
Il y a eu deux rendez-vous, un grand rendez-vous, Legault et Marchand. Puis Marchand, Bruno Marchand, maire de Québec, ont rencontré également le nouveau maire de Lévis, Stephen Blainey, dans les dernières heures.
On en jase jusqu'à 14 heures. On en jase en 102.1. Gros dossier du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14 heures, on en jase.
Je préviens, on jase!
Certains qu'on jase peut-être trop en plus, mais c'est notre habitude. Hein?
On prend un peu de retard, un peu de retard.
Retard, un vendredi midi 46. La seule chose, c'est que... Oui, la seule chose, c'est que si on a du retard à l'extérieur, on gèle plus longtemps. Je t'explique pourquoi. Ben c'est moins 15 actuellement, mais avec le refroidissement éolien, on touche moins 21 jusqu'à moins 28 aujourd'hui.
Ah.
C'est vraiment une journée d'hiver.
C'est pas des belles nouvelles, ça.
Ça dépend. Ça dépend comment t'es habillé.
Faut que tu t'habilles bien. Hey, moins 28, moi, je le dis, ça fait deux jours, on a fessé un mur en termes de température.
Là, t'es fatigué, t'as de la misère à te lever depuis le froid hivernal.
Ben, tu te lèves, puis là, ton lit, il est tout chaud.
Oui.
Tout chaud. Puis là, oui. Tu sais qu'il fait genre moins 20 dehors. C'est encore moins motivant. Déjà que c'est pas nécessairement motivant, se lever le matin, ça rajoute une couche par-dessus.
Je considère avoir de l'empathie et de la compassion pour les gens en général, mais j'en ai pas beaucoup pour ceux qui s'habillent pas, finalement, quand ils viennent à sortir. J'en ai pour ceux qui travaillent dehors, par exemple. Parce qu'une fois que tu as eu chaud, que tu as travaillé à sueur de ton front ou encore que tu as un job pour laquelle tu dois être dehors toute la journée, en gelure, même ton stock d'hiver devient un petit peu plus froid, etc. Vous, là, je pense fort à vous aujourd'hui. Demain, samedi, neige intermittente, maximum moins 6 avec le refroidissement éolien, le minimum pourrait être à moins 18. Sinon, dimanche ensoleillé, maximum moins 10. Puis, tu sais, on ne retournera pas là, en haut de moins 5 dans les prochains jours. C'est vraiment l'hiver qui s'est installé pour, j'espère, un Noël tout blanc. Dans l'actualité, Mathias, parce que ça prend pas de congé, l'actualité.
Ça roule.
Et tantôt, on va jaser un peu de faits divers cocasses. J'ai l'impression que c'était comme un peu un show d'humour, les nouvelles aujourd'hui. Pas par l'intensité puis la gravité des faits en tant que tels, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau actuellement pour que nos criminels soient farfelus, je vais dire comme ça, soient criminels mais farfelus? On reviendra avec ça. Mais nouvelle du jour, assurément, ce qui se passe au PLQ, Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez, on veut sa démission. On commence à avoir une pétition à l'interne. Très rapidement là-dessus, Mathias.
Oui, effectivement, c'est une pétition justement qui circule au sein des membres du parti présentement. Pétition qui demande clairement la démission du chef du Parti libéral actuel, Pablo Rodriguez. On nomme notamment l'intégrité du PLQ, qui n'est pas nécessairement à son meilleur depuis le début de la crise majeure que vit le parti, qui a commencé quand même depuis trois semaines. Donc, ce courriel qui circule présentement au sein des membres, on ne connaît présentement pas le nombre de signataires exacts, mais c'est sûr que ça chambranle un peu, là, parce qu'on nous répète un message, nos partisans, nos militants sont derrière nous. Bien, ça montre que ce n'est pas nécessairement tous les partisans du parti qui sont derrière eux. Je passe rapidement budget du RTC.
Oui.
Ça a été on a eu la rencontre ce matin par rapport au budget parce que c'était censé être la semaine prochaine, mais hier, ça a fuité par erreur du côté de la Ville de Québec, ce fameux budget-là.
C'est ce qu'on dit, puis toi, tu y étais ce matin.
J'y étais ce matin. Ce qu'on retient notamment du budget, c'est le retrait de l'électrification. J'ai tout le temps de la misère à dire. L'électrification du côté du RTC, donc on retire le budget qui était mis pour ça, justement.
Ouais.
Par contre, ça, la transition électrique des différents réseaux de transport, c'est une obligation gouvernementale. Donc, le gouvernement l'oblige. Le maire a dit hier que, selon lui, ça ne va pas nécessairement déranger le gouvernement, que pour lui, le gouvernement va retirer des cibles même parce qu'ils ne sont pas réalistes avec le financement que le provincial donne présentement.
On voulait, jusqu'en 2034, avoir tranquillement, pas vite, une suppression sur nos autoroutes des véhicules à essence, du moins les nouveaux qu'on allait vendre, une suppression totale. On demandait aussi au réseau de transport de commencer à travailler en ce sens-là, soit à l'électrification du réseau de transport. d'accord, on a reculé pour l'Équidam, le commun des mortels, avec la date de 2034. Est-ce qu'on va reculer aussi peut-être au niveau du transport en commun? Écoute, c'est des sommes faramineuses. C'est aussi tout un revampement de comment est-ce qu'on les répare. On avait besoin de nouveaux garages, nouvel équipement, nouvelle expertise. Peut-être que ça va trop vite, oui.
Oui, puis les villes ont raison. Le gouvernement provincial ne finance plus suffisamment pour cette transition électrique là qui est demandée. Justement, on peut penser à l'exemple du garage Newton qui a été mis sur pause. Du côté du RTC, justement, grosse demande ce matin dans le budget. On demande au gouvernement provincial de recommencer le garage Newton, mais sans l'électrification, justement. Donc, on ferait des économies de 130 millions de dollars au total sur la construction de ce garage-là. Ça paraît énormément, mais ça reste que le gouvernement provincial l'avait arrêté parce qu'il n'avait plus d'argent pour ce projet-là. Donc, du côté du RTC, on dit que c'est nécessaire, qu'il faut absolument que ça recommence. Et on a demandé la question ce matin à Nicolas Girard, directeur général du RTC. Si jamais le gouvernement provincial embarque pas, qu'est-ce qui se passe pour la RTC?
À risque à long terme, vous savez, pour opérer un réseau de transport, là, ça vous prend des bus, ça vous prend des infrastructures, ça vous prend des ressources humaines, puis ça vous prend du financement. S'il y a des éléments de la recette qui ne sont pas au rendez-vous, bien, le gâteau ne lèvera pas.
Puis du côté du RTC, on dit qu'on a tout simplement plus de place suffisamment pour mettre nos autobus. Donc, c'est vraiment une nécessité absolue. Rapidement, je fais un tour côté taux de chômage. On a eu des statistiques aujourd'hui. Le taux de chômage au Canada a diminué de 0,4 points de pourcentage. Il est maintenant à 6,5. On parle de 5,1 au Québec, donc c'est très bas. C'est une bonne nouvelle pour l'économie. Un taux de chômage de 5, c'est pas mal la cible. Ça veut dire que t'es en emploi, t'as suffisamment de main-d'œuvre, mais en même temps, t'as pas trop de personnes sur le chômage, donc c'est un très bon signe pour l'économie. La ville de Québec diminue encore 0,2 de moins. On passe à 4,2 de taux de chômage pour la ville de Québec. C'est très, très, très bas. Et bonne nouvelle, l'économie canadienne entre septembre et novembre a créé 181 000 nouveaux emplois, donc et ça malgré les mesures tarifaires de Donald Trump. Donc, peut-être qu'on va réussir à s'ajuster à ces fameux tarifs-là, finalement.
J'ai encore des doutes, par contre, parce que malgré la main-d'œuvre dans tout ça, ce qui se passe, c'est des entreprises qui paient cher de leur poche. Hein. C'est énorme, en fait, ce qui se passe sur l'impact aussi de production de métaux et autres. Bois, c'est eux qui ramassent la facture. Là où le bas blesse, c'est qu'en plus, il n'y a rien pour les aider.
Ouais,
c'est des gens qui ont choisi le Québec, le Canada, pour garder les usines. Écoute, à suivre là-dessus. Mais justement, Mark Carney rencontre aujourd'hui Donald Trump du côté des États-Unis.
On va croiser les doigts. Hein?
Au niveau économique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui.
Puis la raison pourquoi Mark Carney rencontre notamment Donald Trump aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la Coupe du monde qui a présentement lieu. Là,
oui.
On peut voir.
On est en live.
Oui, Mark Carney
tout fier en tenant ses bouts de papier.
Donc, on va voir d'un instant à l'autre probablement dans quel groupe le Canada va se trouver. On vous tient au courant avec ça. Juste vous rappeler que deux matchs pour le Canadien en fin de semaine. Samedi, ça se passe à Toronto contre les Maple Leafs, qui ont une saison un peu plus difficile, mais qui ont quand même gagné leurs trois derniers matchs. Et dimanche, contre les Blues de Saint-Louis, cette fois-ci à Montréal. Premier match pour Zachary Bauduc face à son ancienne équipe. Saint-Louis qui connaît une saison très, très difficile avec seulement 9 victoires et 12 défaites.
On se dirige vers notre prochain invité. C'est un peu notre saveur du vendredi qui, de son chez lui, est toujours capable de nous amener des petits potins de la ville ici et là. Il est au bout du Zoom. Tiens, Irénée Routema, salut, ça va?
Oui, ça va, merci. Il fait froid, comme je le disais à Mathias, là, mais ça va super bien.
Dit-il dans son show chez lui. Irénée, très content de te parler aujourd'hui parce qu'il y a eu deux belles rencontres. Hein. Cette semaine, le maire Marchand était bien présent. Je ne sais pas si c'est lui qui a initié les rencontres. Je ne sais pas si c'était lui qui a demandé cela. Mais il rentre dans son premier mandat, tout feu, tout flamme, et il rencontre deux personnes extrêmement importantes pour ces prochaines quatre années-là. D'abord, François Legault. On ne sait pas pour combien de temps cette rencontre-là va se valoir, mais se vaut actuellement. Ils se sont vus à l'Hôtel de Ville cette semaine. On a bien sûr parlé du tramway comme quoi, bien, c'est un projet qui va se faire. On a parlé du financement aussi. On a rappelé du côté du premier ministre qu'on espère toujours une contribution fédérale, alors pas juste provinciale, cette fois-ci fédérale à la hauteur de 40% pour que les trois paliers de politique, soit municipal, provincial et fédéral, aillent de l'avant avec le dit projet.
Oui, exactement. Donc, ils ont parlé du tramway. Donc, les deux élus sur le tramway, ils sont d'accord. Monsieur Legault et Mathias y étaient à son point de presse. Il a reconnu que même le fédéral, il a confiance que le fédéral va financer le tramway. Et Monsieur Marchand, qui n'a pas toujours eu une relation, disons, amoureuse, non, si je peux me permettre, avec Monsieur Legault. Donc, Monsieur Legault a indiqué qu'en ce qui concerne le troisième lien, les deux élus ne sont pas d'accord, mais que le tracé sur lequel Monsieur Julien est en train de refaire, ils vont essayer de faire un tracé qui fera plaisir à Monsieur Marchand.
Oui,
alors, donc,
que...
Monsieur Legault était à mode
séduction.
À mode séduction, il sait que Monsieur Marchand est très populaire pour le moment, que donc il a une grande majorité, comme on le dit très souvent. Mais ce que j'ai observé, c'était vraiment une rencontre très, très, très protocolaire, parce que Monsieur Marchand a accueilli Monsieur Legault sur le parvis de l'hôtel de ville, et Monsieur Legault, maladroit, moi je n'apprécie pas toujours ses blagues, mais peut-être les gens de son équipe et les gens qui l'ont élu les apprécient. Il est arrivé, avant de dire bonjour à Monsieur Marchand, il lui a posé la question suivante: qu'est-ce que tu fais en running shoes dehors? Là,
il est maladroit.
Oui, ça c'était vraiment...
Il se veut jovial, mais ça passe pas beaucoup.
Oui, donc ça c'était fascinant. Et par la suite, donc, nous sommes allés dans le salon du maire. Mm-hmm. Ah, donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un photo op. Les élus se rencontrent, ils invitent les médias à prendre des photos, etc., etc. Et M. Legault a partagé avec les médias qui étaient là aussi pour féliciter Marchand pour son élection presque facile. Là, on était là, Monsieur Legault encore, et Monsieur Marchand a dit: ah, je ne dirai pas ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, et je le dis souvent depuis que nous collaborons ensemble, il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Donc, je parle de Mme Guilbeault, ministre des Affaires municipales, et qui a déjà rencontré la mairesse de Montréal. On a vu les photos sur les médias sociaux de Mme Guilbeault, qui fait un bon travail, à mon avis, dans ces médias sociaux. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi les deux élus ne se sont pas encore rencontrés? Mm-hmm. Mais je pense qu'ils s'étaient rencontrés peut-être en privé, discrètement, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et donc, hier aussi, là, donc, M. Marchand a pris le bateau du pèlerin pour aller sur la rive sud, rencontrer le nouveau maire.
Avant de passer à la rive sud, Irénée, tu es un analyste politique depuis un bout déjà. Je trouve ça intéressant que tu amènes le point de Geneviève Guilbeault là-dedans. La dernière fois qu'on a vu une rencontre qui a été publicisée, tiens, au niveau médiatique, c'était la rencontre dite franche et intense de 90 minutes entre Mme Guilbeault et Bruno Marchand, maire de Québec. Et on a l'impression de lire entre les lignes à ce moment-là, en avril 2025, que franche et intense, ça veut dire un peu houleux, tiens.
Tendu.
Oui, tendu. Ça va probablement de soi avec le fait qu'il n'ait pas été dans la même pièce, au niveau au moins public et rapporté au niveau des médias jusqu'à maintenant. Alors, ça a été François Legault qui a plutôt rencontré Bruno Marchand. Et dans cette discussion-là, c'est quand même le tramway, c'était également l'immigration qui ont prôné, en fait. L'immigration qui se doit d'être abordée. Parce que, un, si Geneviève Guilbeault avait été là, affaire municipale, c'est super important dans plein de villes au Québec. Elle aurait pu aussi donner son grain de sel. Est-ce que tu penses que c'est François Legault qui a dit « Madame Guilbeault, vous ne venez pas » ou encore « c'est beaucoup mieux de se faire ainsi, soit de façon dissociée, si jamais ils ont à se rencontrer Madame Marchand, Madame Guilbeault et Bruno Marchand?
Monsieur Legault, depuis quelques semaines, quand ça ne va pas bien dans les dossiers de ses ministres, il reprend le dossier. Et nous l'avons vu avec les médecins la semaine dernière. Il a commencé, il a tassé un peu M. Dubé pour prendre le leadership dans ce dossier-là. Et je pense que sur ce dossier-là, M. Dubé ne doit pas être très, très content. Alors, M. Legault étant pragmatique, et il a décidé, donc, là c'est, on est en politique fiction, c'est mon hypothèse, d'aller rencontrer M. Marchand, parce que c'est certain, et c'est un secret d'oppositionnaire, qu'il ne faut pas inviter M. Marchand et Mme Guilbeault dans le même party de Noël. Donc, vous ne le verrez pas ensemble dans un party de Noël. Alors, M. Legault a donc, respectueusement, il a dit, écoute, les deux ne s'aiment pas beaucoup, alors je vais aller rencontrer M. Marchand, et c'est vraiment à son honneur là-dessus. Et en revenant sur ton sujet, ton propos sur l'immigration, donc ça, c'est un sujet très sensible, et moi, ça me touche beaucoup, parce que souvent, la CAQ, quand elle parle des problèmes du Québec, c'est souvent la faute des immigrants, le logement, donc le transport, l'éducation. Donc, tous les problèmes que nous traversons, ça serait la faute des immigrants. Donc, c'est le message que la CAQ passe. Mais ce que j'ai apprécié de M. Legault, et Mathias était à côté de moi, c'est qu'il a dit « Québec, la ville de Québec » a besoin des immigrants. Les immigrants sont les bienvenus ici parce que le tramway va créer beaucoup d'emplois. Et il a parlé aussi de la rive sud. Et donc, les chantiers des villes vont créer beaucoup d'emplois dans le futur. Et il a reconnu aussi que la ville de Québec et la ville de Lévis sont capables d'intégrer les immigrants et de les franciser. Alors, j'ai trouvé que son discours a évolué, et je sais que M. Marchand est très sensible à l'accueil des immigrants, parce qu'on a besoin de plus de travailleurs, on va en avoir besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, et ça c'était un sujet, d'après ce que j'observe depuis un certain temps, discorde, le discours de l'immigration entre M. Marchand et M. Legault. Alors, oui. J'étais content d'entendre M. Legault dire que les immigrants sont les bienvenus à Québec, parce qu'ils ne viennent pas pour vivre de l'aide sociale. Ils viennent
pour travailler. Oui, ils ont une dignité, une fierté. Là. Oui, assurément, ils veulent faire partie de la société. René, rapidement, en terminant, il y avait aussi cette rencontre entre Marchand et Blainé. Il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti, mis à part qu'on veut collaborer ensemble. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça pourrait mettre fin au rififi entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, bien aux dépens des citoyens. Ça a toujours été entre les maires que ça ne fonctionnait pas dans les dernières années. Mais chose certaine, on veut s'inspirer des bonnes pratiques de part et d'autre. C'est ça qui en est découlé.
Oui, et rapidement, donc moi, ce que j'ai aimé, et je l'apprécie, et je salue M. Blainé et M. Marchand, de s'être rencontrés pour collaborer afin de défendre les intérêts des deux villes. Et la chose que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que dans leur rencontre, il y avait la présidente de la Chambre de commerce de Lévis, donc Mme Morancy, et M. Boisvert de la Chambre de commerce de Québec qui étaient présents. Et les deux, depuis un certain temps, ont créé ce qu'ils appellent l'Alliance économique Lévis-Québec. Alors donc, ils travaillent main dans la main, il n'y a pas de rivalité, ils sont vraiment complémentaires pour défendre les intérêts de Lévis et les intérêts de Québec. Donc, leur union, et je pense qu'il a dû inspirer M. Marchand et Stephen Blainé, rend notre région forte, et ça leur donne un poids pour aller chercher des contrats, pour faire des représentations auprès des élus, que ce soit au provincial et au fédéral. Et je trouve ça vraiment, là, c'est un mariage heureux. Cela dit, il y aura toujours, comme dans tout mariage, des désaccords, parce qu'il y a le sujet sur lequel les deux élus ne s'entendent pas, c'est sur le troisième lien. M. Marchand attend les études probantes pour se prononcer sur le projet, mais il ne veut pas que le projet suive le tracé actuel qui est en train d'être réévalué par M. Julien. Et M. Blainé, lui, il veut un troisième lien, mais à l'est. Malgré donc les désaccords, mais je pense qu'ils vont travailler ensemble, ils vont collaborer, et je trouve ça important, parce que la grande région de Québec inclut les villes, donc c'est très important de voir qui vont travailler ensemble parce que, semble-t-il, on veut, je ne savais pas ça et je m'en excuse, là, on veut des contrats pour construire des sous-marins à Lévis. Là. Je ne savais pas qu'on pouvait construire des sous-marins à Lévis. Là, je pense. Donc, ça m'a marqué beaucoup.
Merci beaucoup, Irénée Routhéma, analyste politique. Entre autres, avec nous, tu fais de la politique municipale. On apprécie ton apport le vendredi. On se retrouve dès la semaine prochaine.
Parfait. Bonne fin de semaine à vous deux.
Bye. C'était deux rencontres hyper importantes, Mathias, auxquelles tu as assisté aussi.
Oui.
Il y a certainement fort à parier que ça va mener peut-être à de la meilleure politique pour les prochaines années parce que c'est un peu tout le monde qui est sur la sellette avec ça. Bruno Marchand doit prouver qu'il méritait ce mandat-là parce que la course à l'élection a été tout sauf juste pour Bruno Marchand. Ça a été un concours de circonstances qui l'a élu majoritaire. Donc, il y a à se prouver. Il y a aussi des défaillances qui avaient été mise à jour, puis qui avait été fort déploré par les citoyens puis les électeurs lors de son dernier mandat. Fait que ça, c'est intéressant. François Legault a à se faire réélire si jamais il veut avec son parti. Fait qu'ils ont à travailler en ce sens-là. Puis Steven Blainey, qui est revenu en politique, cette fois-ci municipale, en a plein les bras du côté de Lévis.
Ah oui, il en a plein les bras, non? Juste un rappel, présentement, il y a à combler 13,9 millions. Du côté du budget David de Lévis. Donc ça va être très difficile pour M. Blainey au cours des prochains jours. Là, budget de Lévis qui va être déposé le 15 décembre. Du côté de Bruno Marchand, là, grosse semaine, puis bonne semaine, j'ai envie de te dire. Là, il a montré un gros leadership cette semaine. Il sort de la rencontre de François Legault. François Legault dit, on a écouté M. Marchand sur l'immigration. On veut faire plaisir à M. Marchand sur le troisième lien, puis on va financer le tramway de M. Marchand. Fait qu'en partant, on a vu qu'il y avait une position de force quand même avec François Legault. Par la suite, dépose un excellent budget, il faut dire. On a critiqué quelques points qui étaient peut-être un peu cachés, mal communiqués, mais ça reste que c'est un excellent budget pour la Ville de Québec. Jeudi arrive, rencontre avec M. Blainey. M. Blainey qui dit qu'il veut s'inspirer de Québec pour le logement social, pour l'itinérance, parce que Québec, c'est un exemple. Donc, pour lui, c'est une excellente semaine. Jusqu'à maintenant, Bruno Marchand.
Oui, beaucoup, par contre, de rencontres plus protocolaires à suivre dans l'exécution de ces discussions-là. Et vous écoutez, on en jase, Jeff Fortin, qui est absent aujourd'hui, qui revient dès lundi. Mathias est avec nous et je m'appelle Pascal. On vous accompagne jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. De l'autre côté de la pause, très heureuse de parler avec Luc Laliberté, chroniqueur en affaires américaines, politique américaine. Bien des choses qui se passent de l'autre côté, entre autres. Rencontre entre Carney et Donald Trump en ce moment. On va jaser les tarifs, c'est certain. Mais aussi des choses qui se brassent à l'international. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les forces armées des États-Unis ont probablement commis ce que certains déclarent comme des crimes de guerre ou carrément juste des meurtres en tuant intentionnellement des marins du Venezuela dans les Caraïbes après que leur bateau ait déjà été détruit. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Aussi, poursuite intentée par le New York Times contre le Pentagone et Pete Hegseth. On en parle avec la Liberté dans On en jase. Restez branchés à Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Non, Mathias ne fait pas le Movember avec sa petite moustache. Là. C'est vraiment un style, je pense, qui définit sa génération actuellement. Vous êtes sur Twitch, twitch.tv/blvd/fm pour admirer la superbe, comme diraient les jeunes, statue de Mathias. Mathias qui est en remplacement de moi-même, qui, moi, est en remplacement de Jeff Fortin aujourd'hui.
Ça... ben, c'est quand même clair. Ça a l'air compliqué, mais c'est clair au final.
C'est super simple. On est avec vous jusqu'à 14h.
J'ai l'impression que la moustache, ça fait bien du bruit. Là. Pour moi, c'est un peu normal. Comme le monde de notre âge
c'est vraiment
a un
à la
peu
mode.
Tout à moustache. Là.
Super à la mode en ce moment, mais je pense que ça vient nostalgique pour les anciennes époques. T'sais, moi, je regarde mon père, pas dans tes âges actuellement, mais à ton
j'imagine
âge. J'imagine
qu'il n'est pas dans mes âges.
C'était un peu étrange. C'était ça. C'était les grands cheveux longs, la froc de jeans ou de cuir avec la grosse moustache, puis ta rase vraiment régulièrement avant de pouvoir arriver à un genre de quelque chose qui n'est pas prépubère. Mais bien qu'on aime Movember, nous, à Boulevard 101, ces temps-ci, on parle souvent de la cause du patron Rocamado parce que là, jusqu'au 12 janvier prochain, on s'unit pour soutenir la campagne Ensemble pour un Noël sans fin. C'est une initiative qui joue un rôle crucial. Hein? Vous savez, patron Rocamado qui n'a pas eu les choses faciles dans les derniers derniers mois. On a passé au feu, mais on décide quand même de redonner à tous les gens dans le besoin, entre autres à Limoilou. C'est super simple, en fait. Si tu t'en vas sur le site du Patro Rocamadour, dans la section blvd.fm aussi, tu vois que quand tu achètes un panier d'épicerie virtuelle, c'est au profit de la campagne. Puis des paniers à partir de 20 $ qui vous sont proposés, là, tu peux même faire des dons de 10 ou moins, mais ça soutient les gens d'ici, directement dans notre capitale nationale préférée. Donc, patrorocamadour.ca, tu vas en apprendre un peu plus sur l'implication essentielle du centre communautaire, mais qui nourrit aussi les bouches de Québec puis les familles qui en ont tant besoin, mais pas la moustache de Mathias.
non, pas. Ma moustache, je la nourris moi-même.
Oui, ouais, t'es bon là-dedans, là, tu te la rases, tu te la coupes, toujours pour être fierpète sur le Twitch. Hey Matt, par exemple, là, c'est vendredi, il faut le dire, il fait beau, les gens ont le goût de retourner à la maison, d'aller se coller fort probablement avec le froid actuel de moins 18, puis le facteur éolien qui nous descend ça à moins 21. Mais sur Laurentienne, ça se compliquait?
Oui, Laurentienne direction sud, en arrivant sur Capitale, ralentissement habituel à prévoir également. Capitale direction ouest, justement à hauteur de Laurentienne, ralentissement qui commence à se créer. Capitale direction est, c'est entre Pierre-Bertrand et présentement boulevard Saint-Jacques. Là, c'est quand même un bon ralentissement qui commence à se créer. On est vendredi, ça commence tôt, puis ça va finir probablement quand même assez tard si vous avez des informations. 418-971-1021.
Vous nous aidez toujours de cette manière-là. On s'en va rejoindre comme collaborateur régulier à Boulevard 102.1. C'est Luc Laliberté, qui est chroniqueur, qui est analyste politique, surtout de la politique américaine. Salut, Luc!
Ouais, bonjour à vous deux. Et en passant, solidarité avec Mathias. J'arborerais la moustache comme lui, mais vous ne la verriez pas. La mienne est trop blanche maintenant. Donc, mais je suis quand même solidaire.
À une autre époque.
On dit que les modes reviennent. C'était ton cas, toi, en quelle année, Luc, la grosse moustache?
Non, j'ai pas porté ça très, très longtemps. Et c'était l'autre moitié du couple qui intervenait dans la décision. Donc, on a choisi d'investir dans la famille.
T'as choisi l'amour et non le poil. Écoute, dit comme ça, on peut pas avoir meilleur début de chronique ensemble parce que ben ça va attirer l'attention, c'est certain. Bon, pas ce qu'on vient de jaser, mais la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis, je comprends, c'est dans un contexte sportif. Initialement, on est là pour la pige dans la Coupe du monde de soccer, mais ouais. Tu sais, c'est un prétexte en ce moment, parce qu'on veut surtout avoir accès, j'ai l'impression, à Donald Trump pour avoir des discussions au niveau économique.
Oui, puis écoute, je suis parfois curieux de... J'aimerais savoir ce qu'imagine M. Poilievre dans ces circonstances-là. Parce que s'il n'y avait pas eu, justement, Donald Trump, c'est peut-être lui qui serait notre premier ministre actuellement. Comment se prépare-t-on à rencontrer Donald Trump et comment se prépare-t-on à le rencontrer le plus souvent possible, alors que approchent les véritables renégociations du traité de libre-échange? Donc, c'est une des choses dont on parle moins. Hein. On s'inquiète toujours, bien sûr, de la réaction américaine, des tarifs américains, des exigences du président, du fait qu'on lui fait de petits cadeaux, de petites concessions, parfois de grosses, ici et là. Mais on n'est pas encore vraiment dans le vif du sujet. Ce qui est le plus gros hein, dans ce qu'on a géré avec lui, bien, ça s'en vient. Et probablement que M. Carney, qui habituellement est bien au fait hein, de ce qui se fait dans le secteur économique, secteur financier, il souhaite préparer le terrain, profiter de cette rencontre-là qui, normalement, est essentiellement conviviale et profiter du fait que, mine de rien, on va flatter le président Trump encore comme il aime l'être parce qu'on pense bien qu'on va lui remettre ce prix, hein, de ce premier prix pour la paix de la FIFA. Oui. C'est pas un hasard, hein? Il n'a pas eu le Nobel de la paix. Puis tout de suite après, on dit ben, tant qu'à faire le tirage chez vous, pourquoi on ne vous remettrait pas? C'est notre première édition de ce prix pour la paix. Donc, disons que le contexte est favorable où on risque d'avoir un président Trump plus de bonne humeur. Souvent, c'est l'état dans lequel il est la journée où on le rencontre. Donc, j'ai hâte d'avoir des échos de ça, d'avoir plus de détails de cette rencontre-là, parce que oui, on cherche une proximité puis des liens les plus conviviaux possibles. Puis M. Carney, peu importe nos allégeances politiques, on est parfois déçus, on a l'impression qu'il fait des concessions, mais il a évité, je pense, le pire de Donald Trump depuis le début.
Ah, oh, tu penses ça? Parce que, écoute, les échos ou encore ouais. Les gens qui nous écoutent sont très vocaux sur le fait que pour eux, c'est un échec actuellement, le travail du premier ministre Carney.
Bien, tu vois, j'ai dit le pire. Ça signifie pas que comme Canadien ou comme Québécois, je sois content non plus. Si je regarde dans ma vie de tous les jours, si je regarde dans un horizon qui n'est pas si loin, il y a des choses qu'on perd déjà comme Québécois, puis on risque d'en perdre d'autres. Mais ça montre bien à quel point Donald Trump déstabilise la situation peu importe la province canadienne ou encore qu'on parle du gouvernement canadien lui-même. C'est on s'en va à Washington et souvent dans le plan de match, c'est comment éviter d'être humilié. Donc, et quand on est déçu, puis qu'on essaie de prendre un peu de perspective, c'est que quand je dis que moi, il a évité le pire, c'est très, très clair. Tout le monde le dit au Canada. On veut diversifier notre économie, mais ça fait 20 ans que je couvre la politique et ça fait 20 ans que j'entends ça. Mais diversifier notre économie, trouver de nouveaux partenaires, investir de nouveaux terrains de jeu pour l'économie, c'est des choses qui ne se font pas hein, en claquant des doigts, on ne se vire pas sur un dixième, comme on dit parfois dans le jargon. Ça demande des investissements à moyen et à long terme. Ce qui fait qu'en attendant, on n'a comme pas le choix de jouer le jeu de Trump et ce sont ses règles du jeu. D'ailleurs, c'est un président américain. Peu importe avec quel président américain on négocie, on peut aimer le style, le ton ou le sens de l'humour de certains au détriment d'autres. On n'est pas le gros joueur autour de la table. Et c'est là où se retrouve Mark Carney, finalement. C'est que puis-je dire à Donald Trump pour que le ton reste convivial, pour qu'on puisse espérer revoir un traité de libre-échange qui, en passant, est avantageux aussi pour les États-Unis. Il n'y a pas un de ses prédécesseurs qui a perdu au change là-dedans. Donald Trump le fait différemment, mais pour le meilleur et pour le pire, qu'on ait voté conservateur, qu'on ait voté libéral ou pour une autre formation politique, à très court terme, malheureusement, c'est la donne qu'on a. Donc, j'espère que pas juste M. Carney, que tous les autres partis politiques, puis que nos institutions ont bien enregistré le message, on ne peut plus être aussi dépendant des États-Unis qu'on l'a toujours été. C'était la solution la moins complexe. Écoute, c'est la porte à côté. Hein? Nos économies étaient tellement imbriquées, il va falloir investir plus d'efforts. On le fait déjà en passant, là, pour discuter avec des gens qui s'investissent là-dedans. Donc, on le fait déjà, mais il va falloir accélérer le rythme puis regarder ce qu'on est capable de faire à moyen et à long terme. Et c'est pas tellement jojo ou positif alors que la fin de semaine approche, mais à court terme, on est très dépendant de M. Trump, malheureusement.
Au niveau économique, puis en plus, nos valeurs sociales aussi tendent à changer, ou du moins, sans que ça se fasse de façon claire, il y a des changements qui sont remarqués. Avant, on était un peu une unité aussi au niveau des valeurs occidentales qu'on partageait. Là, on voit quand même quelque chose qui se fragilise
à ce niveau. Et je suis de ceux qui craignent beaucoup autre chose. Et ça, c'est plus large que juste les États-Unis. C'est quand on regarde à l'échelle de la planète, les pays qui ont des régimes autoritaires sont en croissance. Et c'est eux qui souvent sont alliés ensemble pour essayer de s'en prendre aux démocraties, à affaiblir les démocraties. Et actuellement, on a un président américain qui n'est pas particulièrement attaché à la démocratie. Donc ça, ce serait une émission complète que je pourrais passer à étoffer ce que je suis en train de dire. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne jouera pas les règles du jeu habituelles, normales, depuis 250 ans, parce qu'on va fêter le 250e anniversaire des États-Unis en 2026. Donc, on a quelqu'un qui s'en va vers un régime autoritaire. Et ça, pour le Canada, c'est pas une bonne nouvelle non plus.
Fais-moi pas ça, Luc, je t'arrête tout de suite, parce que tu le sais, je vais vouloir parler avec toi longtemps, je vois l'émission, ça avance, je vais être fâchée contre toi. Tu joues dans quelque chose qui m'excite grandement au niveau du commentaire politique, là. Arrête!
La précision est importante au niveau du commentaire politique.
Garde ça dans ta poche, puis donne-le pas à personne d'autre, OK? Protectionniste. Mais je voulais aussi te jaser, puis t'en as fait un jaloux, t'en as rendu un jaloux en début d'émission, Farnell Morissette, il y avait aussi ce sujet-là entre les mains, puis il dit « Crème, il faut en parler, on n'en parle pas ici. » C'est sûr que là, Pablo Rodriguez, le Parti libéral, la grande coiffe à Pablo, hein, sur laquelle on fixe depuis des semaines, fait en sorte qu'on ne parle pas du Venezuela. Nous a dit « OK, on change vraiment de discussion. » Pas tant, on reste encore au niveau des États-Unis parce que les forces armées des États-Unis ont probablement commis des crimes de guerre, puis sinon carrément des meurtres. Puis c'est ce qu'on constate selon certaines personnes qui se prononcent, en tuant intentionnellement des marins du Venezuela dans les Caraïbes, quand le bateau était déjà détruit. Le bateau était coulé, était détruit, c'était fini. On a quand même tué les marins. On n'a presque pas parlé de ça ici, dans les médias, mais c'est une énorme nouvelle aux États-Unis. Peut-être qu'on devrait l'aborder.
C'est effectivement énorme. Et là, on donne parfois l'impression de s'acharner contre M. Trump. C'est pas la première controverse à l'international du rôle de l'armée américaine ou d'une vision de l'impérialisme américain. Et là, c'est M. Trump qui est en place, donc c'est de lui dont on va parler. Écoute, c'est un jeu auquel on se livre qui est particulièrement risqué et dangereux et qui montre bien à quel point l'administration Trump s'intéresse à contrôler plus que ce que faisaient les autres administrations ce qui se passe en Amérique. L'argument officiel, on va revenir sur les frappes, l'argument officiel de l'administration Trump par rapport au Venezuela puis aux narcotrafiquants, parce qu'on prétend que les navires sur lesquels on tire sont des navires de narcotrafiquants, c'est clairement qu'on veut un changement de régime. On n'aime pas ce que fait actuellement Maduro au Venezuela. On voudrait un changement de régime. Puis il y a derrière ça l'exploitation de richesses naturelles très importantes, dont un type de pétrole que les Américains ne produisent pas. Ce sont de très, très grands producteurs de pétrole, les Américains, mais ce n'est pas un pétrole lourd comme celui des Vénézuéliens. Donc, déjà en partant, l'argumentaire, je m'en prends à ces navires-là qui viennent du Venezuela parce qu'on lutte contre la drogue. Pour moi, c'est une excuse pour les frapper parce qu'on viserait le Mexique avant le Venezuela si on voulait vraiment mettre fin au trafic.
On se rappelle que nos tarifs sont imposés parce qu'il y avait beaucoup de transport de drogue à la frontière. Est-ce que c'est encore une joute qui se ressent?
Tout à fait. Tout à fait. L'idée du fentanyl, ça a été pour obtenir d'autres concessions. Puis on a bien documenté le fait que du fentanyl, il n'en rentrait pas. Il en rentre, mais il en rentre. C'est infime ce qui rentrait à partir du Canada. Donc maintenant, première chose, est-ce qu'on a le droit, si on croit que ce sont des narcotrafiquants, avant même de parler des marins sur lesquels on a tiré deux fois, est-ce qu'on a le droit aux États-Unis et sur la scène internationale, on est qu'à deux niveaux là, pour évaluer ce dossier-là, on a le droit de tirer sur des navires parce qu'on pense que ce sont des narcotrafiquants, parce qu'on n'a rien vu encore. Chaque fois qu'on a évoqué cette question-là, on nous a dit « oui, c'est des narcotrafiquants ». Mais d'abord, est-ce qu'on tire sur des narcotrafiquants comme ça? Ou ce ne serait pas préférable d'arraisonner ou d'arrêter les navires, d'interroger ces gens-là, de les détenir au besoin? Non, on ne fait ni une ni deux sans fournir de preuves et on tire sur les navires. Donc, au plan international, comme les Américains n'ont pas adhéré à ce qu'on appelle le statut de Rome, qui fait naître la Cour pénale internationale, on ne pourra pas s'en prendre aux États-Unis pour ça. Mais c'est déjà, je répète, en termes de droit international, problématique. Si le président dit « je tire là-dessus parce qu'on est en guerre contre les narcotrafiquants », pour déclarer une guerre, le président ne peut pas décider ça tout seul. Il faut qu'il demande l'avis au Congrès, les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Il n'y a personne qui a reçu ce message-là. Donc, ça part mal déjà en termes de comportement ou d'attitude. Et l'autre chose, c'est cette deuxième frappe, ce qu'on appelle en anglais le « double tap ». Les Américains ont déjà fait ça sous Barack Obama en envoyant des drones, par exemple. On complétait une première charge. Mais le processus, ce serait long. Le processus était beaucoup plus complexe. Il y avait plus de vérifications pour effectuer les frappes de drones sous Obama que ce qu'on a fait là. Maintenant, en passant, pour Obama, ça reste problématique. Ce n'est pas l'héritage le plus brillant ou le plus glorieux de l'administration Obama. Mais cette deuxième frappe-là est problématique parce que là, les gars, on a vu la vidéo maintenant, elle a été rendue disponible. Les gens au Congrès ont pu l'étudier. Ce sont deux survivants qui sont là. Ils ne peuvent même plus émettre de signal radio. Et l'amiral qui est là en question, qui est l'amiral Bradley, il va d'une deuxième charge pour éliminer les survivants. Ça va même contre le code d'intervention de l'armée américaine. Donc, quand je disais, il y a toutes sortes de niveaux d'intervention, au plan international, c'est déjà tout croche et c'est mal vu. Et on pourrait très bien dénoncer ce qu'ont fait les Américains, même si on ne peut pas s'en prendre aux Américains parce qu'ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Mais aux États-Unis, puis au sein même du Pentagone, c'est problématique. On a le livre de jeu des militaires américains, et là, sous l'autorité du secrétaire à la Défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous Donald Trump, bien là, on dit on ne respecte pas notre propre livre de règlement, puis on y va d'une deuxième charge pour éliminer les survivants.
C'est toute une histoire, puis c'est loin d'être terminé parce que quand ça arrivait, on voyait que c'était pas le seul bateau qui avait été touché.
Il y en a eu un autre cette nuit ou ce matin, d'ailleurs. Il y a quatre autres victimes supplémentaires.
Puis, tu sais, ça vient qu'à raviver un peu notre discussion du départ. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette façon, ce changement de paradigme-là du côté des États-Unis? À quoi il sert? Puis, est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le freine? Est-ce que c'est encore dans nos valeurs? Parce qu'il va falloir se questionner aussi sur, je pense, la position canadienne dans ce genre de frappe-là.
Ben, tu vois, une des choses que les Canadiens commencent à faire aussi, c'est pas qu'on le faisait pas du tout avant, c'est qu'on accélère le rythme, puis on multiplie les rencontres, c'est que non seulement il faut maintenant se trouver de nouveaux partenaires ou enrichir des alliances existantes ailleurs dans le monde, il faut le faire en Amérique aussi. Mme Sheinbaum, qui est au Mexique, par exemple, a tout intérêt à se faire un ami de M. Carney. Pour Donald Trump, c'est mieux de les diviser, de rivaliser pour les mettre en opposer le Canada et le Mexique un à l'autre. Moi, je pense qu'il y a plus d'intérêt à collaborer puis à développer cette collaboration-là. Mais le Canada n'est pas indifférent non plus à ce qui se fait en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Et c'est le genre de discussion, de projet qu'il faut mettre de l'avant aussi. Je répète, parce que c'est particulier, hein, Donald Trump, plusieurs de ses partisans avaient dit « on vote pour Trump parce qu'il nous évite la guerre ». Ça semble être vrai au-delà de l'Amérique, mais il agit différemment quand il est en Amérique. Et c'est une forme, on appelait ça avant la doctrine de Monroe. On est en train, c'est un cours d'histoire, mais on est en train de ramener ça au goût du jour, c'est les Américains qui, entre guillemets, se font les protecteurs de l'Amérique. Mais ça, les protecteurs, ça vient avec un certain nombre de contrariétés puis d'actions du gouvernement américain dans des pays. Ça a été longtemps l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Mais là, on voit qu'il existe des pressions sur des partenaires plus proches comme le Mexique et comme le Canada. Donc, on ne parle pas de l'invasion du Canada, on ne parle pas d'un 51e État, mais on parle au plan économique d'une autre façon de dominer finalement les pays qui ont des liens avec les États-Unis. Donc, ça, c'est un angle, ça ne doit même pas être un angle mort, ça doit faire partie de notre vision, de notre développement puis de nos préoccupations.
En terminant, Luc Laliberté, sujet important aussi, mais sujet qui est peut-être même lié au premier dont on parlait, donc celui du Venezuela, là, qui a été attaqué, du moins une flotte avec des marins qui étaient à l'intérieur et qu'on a complètement achevé tout ça. C'est la poursuite intentée par le New York Times contre le Pentagone et Pete Hegseth. Il y a actuellement beaucoup de journalistes dans la salle de presse du Pentagone, puis pour y rester, il y a des conditions.
Voilà. Puis écoute, pour les gens qui nous écoutent, puis pour travailler dans les médias, vous aussi, les médias sont critiqués. Ils sont remis en question. Ça fait partie aussi hein, du jeu démocratique, le travail des médias, mais les critiques des gens qui travaillent dans les médias, je ne sais pas à quel point des gens parmi les auditeurs peuvent être frileux par rapport aux médias traditionnels, mais regardez ce qui se passe actuellement au Pentagone. Donc, on a Pete Hegseth qui a probablement commis un meurtre ou autorisé un meurtre ou un crime de guerre. En même temps, il n'y a actuellement aucun journaliste au Pentagone pour poser des questions aux responsables militaires. Pourquoi? Et c'est là le fond de la poursuite du New York Times, c'est que pour que les médias qui étaient là avant, les grands médias que les gens connaissent, le Washington Post, le New York Times, CNN, Fox News, par exemple, donc c'est des noms qui sont connus, pour que ces gens-là puissent continuer à être au Pentagone et à interroger les militaires, il aurait fallu qu'ils signent l'équivalent d'un serment de fidélité à Pete Hegseth. C'est-à-dire que les journalistes n'auraient pu écrire que ce que le secrétaire à la Défense dit et autorise. Ben là, c'est dommage, mais par exemple, moi...
C'est un contrôle de l'information, là.
C'est carrément un contrôle de l'information. Et aujourd'hui, écoute, c'est même pas une blague. Alors que Pete Hegseth fait ça, qui pourrait être accusé, par exemple, être... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut l'accuser dans une procédure de destitution parce qu'il a autorisé un meurtre. Donc, les médias traditionnels ont questionné puis ont produit des articles là-dessus. On a remplacé les journalistes au Pentagone par des influenceurs, mais des influenceurs MAGA, parce qu'un influenceur, ça peut être positif. C'est de plus en plus à la mode. Il y en a certains qui sont bien informés, d'ailleurs. Mais là, on a mis des influenceurs, partisans de Donald Trump, et au lieu de questionner Pete Hegseth sur les frappes, ils lui ont demandé comment il allait fêter Noël cette année. Donc, quel est le sujet le plus important à couvrir dans les médias au moment où on se parle? Des frappes illégales contre des présumés narcotrafiquants ou quelle boule il met dans son sapin, Pete Hegseth, ou comment il éclaire le salon ou la demeure chez lui? Bien, c'est ça qu'on a éliminé maintenant au Pentagone.
Puis on s'entend, c'est pas grave des influenceurs. Même on encourage s'il y a un accès qui rend les politiciens plus, joviaux, là, qu'on est capable d'avoir une conversation funky avec eux, peu importe, comme bien les politiciens font ici au Québec, même avec certains influenceurs. C'est une chose. Mais de là, la défense que moi, je vais avoir, puis fort probablement bien des collègues au niveau journalistique, au niveau médiatique, c'est de se dire... OK, mais il faut qu'il y ait encore des salles de presse avec différents médias dans une pluralité de visions qui ont accès à ces politiciens-là pour poser les vraies questions. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se rendre à vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous faire une opinion? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir d'éléments d'information pour avoir des débats? Que vous soyez en accord ou pas avec le papier, avec le reportage, avec le raconté de la nouvelle, le récit, vous n'aurez juste pas l'information.
Non, là, ce qu'on a comme régime, c'est quand je parlais de régime autoritaire, c'est un peu ça. C'est un régime qui demande aux médias de simplement porter la parole de l'administration. Quand je parlais d'influenceurs tout à l'heure, tu l'as bien ramené, hein, c'est pas une attaque contre les influenceurs. C'est que ces gens-là n'ont pas de formation et ce ne sont que des porte-voix de l'administration. Donc, c'est pas ce monde-là dans lequel je veux vivre. On parle ici de Pablo Rodriguez, on a parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon pour d'autres raisons. On est capable, dans les médias, de s'exprimer sur nos différents partis, sur ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont contre. Aux États-Unis, c'est pas la tendance qu'on encourage présentement.
Merci beaucoup, Luc Laliberté. Bon, analyste, chroniqueur de politique américaine, enseignant. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans On en jase.
Bye à vous deux, à tous les auditeurs. Une bonne fin de semaine à tout le monde.
Bon week-end. J'espère pas trop frisquet, certainement sous la neige, parce que c'est ce qu'on prévoit dans les prévisions météorologiques. Mathias, sur la route, comment ça se passe?
Sur la route, encore des mêmes ralentissements que tout à l'heure. Là, leur ancienne direction sud en arrivant sur Capitale, un peu plus difficile. Capitale, le gros ralentissement là, présentement, c'est plus Capitale direction est. Là, c'est entre Pierre-Bertrand puis je dirais boulevard Saint-Jacques présentement, qui a quand même un bon ralentissement à prévoir puis qui va continuer de s'empirer avec
oui,
plus que les heures augmentent. Et également Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, léger ralentissement dans le secteur.
Et restez là, on se garde parce qu'au retour, on va faire un tour des faits divers avec Mathias. Et là, ce n'est pas le fait divers traumatisant dont on va parler, c'est vraiment le fait divers du genre... T'as-tu pris un crayon de trop, toi, dans le bureau? T'as-tu pris un ciseau de trop, toi, au bureau? Il y avait une fausse rumeur, parce que je crois qu'elle est fausse, là, au niveau des fonctionnaires dans le temps qui prenaient même le matériel qui était disponible au sein de leur département gouvernemental pour les listes scolaires de leurs enfants. Ça va ramener bien des débats chauds en ondes. Mathias, je vais te laisser la parole tout de suite après cette courte pause. On revient dans On en jase avec Mathias et Pascal parce que oui, Jeff a pris un petit congé aujourd'hui. Dès lundi, il sera de retour. On en jase jusqu'à... Non, mais... Écoutez, je suis perdue en ce moment dans une image qui défile à LCN à la télé. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Il est écrit « Image du jour des chiens robots PDG », puis tu vois des chiens robots avec le visage de PDG comme Zuckerberg et tout ça dans une arène. Tout ce que je vois qu'ils savent faire, c'est éjecter des cartes de leur troufion. Il va falloir que j'aille chercher c'est quoi ça après l'émission. Mathias!
C'est un peu douche.
Écoutez, ça a l'air d'une nouvelle sérieuse.
Ah, 100%. On est vendredi.
Hein? Oui, là, on vient de me surprendre. Écoutez, vous êtes toujours dans On en jase, toujours à Boulevard 101. C'est Pascal qui vous parle. Mathias est avec elle. Je ne veux pas parler de moi à la troisième personne singulier. J'étais un peu... En tout cas,
on est vendredi.
Je trouverai la réponse à ma question. Si jamais vous l'avez, 88-971-101, vous êtes tout autant participant à cette émission-là qu'à l'habitude. Mathias,
oui.
Toute la semaine, on a eu des scandales, de la politique, du du ça. Puis, tu sais, on a fait un beau tour dans On en jase, c'est notre spécialité sur l'heure du midi. Cependant, il y a des perles d'actualité qui tombent en deux craques.
Ouais.
Puis, il y en a une qui a suscité débat entre toi et moi.
Oui, bien, avant ça, je veux revenir sur la crise libérale.
Non, je pensais que tu me lançais sur du Pablo
Rodriguez. Je te blague, je sais que t'es tanné,
Pascal. Il y a une pétition, on veut sortir Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral en ce moment. Au sein des membres, on ne sait pas combien ont voté, on ne sait pas combien ont signé, pardon, à suivre.
On finit la semaine avec des faits divers un peu plus cocasses. Deux faits divers, notamment, qui sont sortis ce matin. Je commence du côté du 6 de Chaudière-Appalaches.
Oui.
Il y a des restrictions budgétaires. On le sait, il y a des restrictions budgétaires partout au gouvernement
oui.
présentement.
Pour ou contre? Ma question est pour ou contre pour les auditeurs, ce que Mathias va vous raconter.
OK. Là, on est contraint de réduire les dépenses, mais genre... vraiment les dépenses. Là. Fait qu'on est allé cibler dans l'approvisionnement en matériel de bureau. Ça fait partie des réponses des dépenses qu'on coupe présentement. Puis, le 17 décembre 2024, de ce qu'a appris le Soleil, il y a eu un moratoire sur l'achat de fournitures de bureau.
Oui.
Ce que ça veut dire, ça, en gros, c'est que présentement, les crayons, les post-it, les cartables sont mis sous clé.
Oui. Dans d'autres mots, certaines personnes diraient qu'on est dans l'enculage de mouches. Au niveau des restrictions budgétaires au 6 de Chaudière-Appalaches.
Ça veut dire que les gestionnaires mm-hmm. puis les assistants gestionnaires ont la clé de l'armoire où sont rangés les fameux crayons, les précieux crayons, on peut presque les appeler comme ça. Donc, si jamais vous voulez des stylos, des crayons, des post-it et que vous travaillez là, bien, vous devez aller voir votre gestionnaire et lui demander « J'aimerais avoir... »
Pardon? Puis-je avoir un stylo?
Je suis désolé, Pascal, on t'en a donné un la semaine passée. C'est un peu exagéré.
Tu ne pourras pas en avoir un deuxième cette semaine. Là, ça a suscité débat entre Mathias et moi parce que Mathias disait « Ben oui, mais là, tu sais, faut couper, hein? » Tu disais « Faut couper. » On va regarder qui est le plus grand consommateur de stylos puis on va y couper l'herbe sous le pied, justement. Excuse-moi, dans un bureau, là, les plus grands... Les plus grands rois du stylo, là, ceux qui règnent sur un peuple complet de petits stylos à billes cachés dans leur tiroir, c'est les plus grands voleurs. C'est jamais celui ou celle qui s'en va à papeterie sans chercher un. C'est toujours celui ou celle qui envoie un traîner sur le bureau de son collègue et qui en prend possession pour ensuite oublier qu'il y en avait 45 dans son petit tiroir à gauche, puis il va en domper un autre. Il est jamais en train de prendre le même. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que dans ces coupures budgétaires-là, c'est pas Gaétan le voleur de crayons qui va se ramasser à cogner et aller en commander un autre. C'est clairement la personne qui se fait voler son crayon jour après jour.
Mais moi, j'ai un gros questionnement parce que je suis d'accord avec les coupures demandées. Il aurait pas pu trouver un autre endroit où couper, je sais pas.
Mais peut-être
là,
que ça parle, justement, que crime, on a essayé d'aller couper dans le gras, puis le gras, on est rendu à y aller d'un crayon. L'autre affaire que sur laquelle je me questionne.
Vas-y.
Y en a-tu qui faisaient leur épicerie dans le matériel du bureau?
Ça se pourrait. Ça se pourrait que mettons, leur enfant devait aller à l'école, avait besoin de matériel scolaire, puis on a des beaux crayons au bureau. Mais...
Autrefois, ça veut dire peut-être hier, autrefois, il y avait des rumeurs comme quoi certains fonctionnaires allaient dans le magasinier, puis remplissaient à coups de grand coche, puis de s'est acheté la liste scolaire de leurs enfants avec ce qu'ils trouvaient, là, en termes de surligneurs, de stylos, etc. Là.
Ben en vrai, ça se pourrait. Il y a toujours du monde qui abuse d'envie. Moi, mon questionnement, c'est rendu là. Si t'es à mettre des stylos
sous clé,
sous cadenas, sous clé, non mais Caroline, que tes employés peuvent plus prendre possession de ces stylos-là à moins de demander au gestionnaire, rendu là, donne-en juste pas.
Puis il n'y aura plus non plus d'impression en couleur. C'est terminé. Si jamais vous voulez mettre un petit peu de couleur dans votre vie, c'est fini. On s'en va en noir et blanc. La vie ne mérite pas d'être en couleur. Impression couleur, par contre, ça coûte cher, hein? Coûtant aux contribuables québécois plus de 10 fois le coût d'une impression monochrome. Fait que quand on regarde ça puis qu'on estime que l'économie de la dernière année est aux environs de 40 000 $ pour avoir passé noir et blanc, moi, je vais dire une affaire. Je suis désolée, mais la couleur, vous la trouverez dans votre bol de Fruit Loops.
Puis c'est surtout maintenant avec les ordi, je pense que tu es capable d'avoir le document en ligne avec de la couleur si tu veux absolument.
Le problème, c'est qu'on parle de système de santé québécois ici. Donc,
en novembre, ils ont-tu des ordinateurs? On est-tu rendu là?
En 2024, Santé Québec a ordonné au 6 de Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas si c'est juste le 6 de Chaudière-Appalaches qui a l'air contrevenant sur le matériel de même, là, mais on a demandé de ramener à zéro le déficit annuel projeté de 52,6 millions de $. Écoutez, là, on est en millions de $ et on est en train de couper dans le matériel. Fait que c'est peut-être pas tant stupide, ce qu'on est en train de jaser. C'est sur ça que je me questionne. Il y a toujours bien au moins une auditrice, un auditeur qui est au courant de quelque chose puis qui est capable de commenter au 88-971-1021.
Mais Théo, 52 millions en même temps, quand il faut que tu coupes 52 millions de $, faut que tu ailles couper partout. Là.
Ouais, mais peut-être qu'il aurait fallu couper dans le gestionnaire aussi.
Ben oui, ben c'est ça. Non, mais évaluer, on a-tu des postes de trop? Je sais pas. Mais on met des crayons sous clé à la
place. Écoute, on a même. Moi, c'est là où ça me fait beaucoup rire, c'est qu'on a même envoyé une missive, OK? Dans missive. C'est là où ça me permet de rire un peu. L'objet, c'est retrait de l'impression couleur sur les multifonctions. Déjà là, OK, ils se comprennent. Dans le contexte de saine gestion et de réduction des dépenses, nous procédons le 8 janvier 2025 au retrait de l'impression couleur et multifonction. 8 janvier, ça veut dire qu'il va nous falloir plusieurs semaines avant d'être capable de couper dans couleur. Pour les personnes nécessitant absolument l'impression couleur dans le cadre de leur fonction, il y aura une demande qui devrait être effectuée par Octopus, un logiciel, en utilisant le formulaire « Ajout d'accès à l'impression couleur » dans la catégorie « Imprimante, télécopieur, photocopieur » en y joignant l'autorisation de votre directeur. Ça veut dire que si tu as vraiment besoin de couleur, ils se comprennent sûrement quand tu as vraiment besoin de couleur, faut aller cogner chez le directeur que tu as une autorisation dans laquelle on ouvre un nouvel onglet dans tes affaires pour te dire, ben oui, toi, tu as le droit à avoir l'impression couleur. Hey!
C'est compliqué.
Hey, c'est du temps.
Mais rendu là, rendait juste pas disponible. Je sais pas.
Là. Ben, c'est pas juste, tu vois-tu à quel point c'est Astérix et Obélix? Là?
Ben, c'est à l'image de notre système, j'ai le goût de te dire. On a une auditrice, Isabelle, qui nous écrit. Une amie travaille au CIUS à Québec. Elles doivent apporter leurs crayons et papeterie. Donc oui, ici aussi, ben, regarde, tu vois, au CIUS de Québec, t'apportes tes crayons. Moi, je trouve ça beaucoup plus logique que de dire on les met sous clé, puis si t'en veux, ben passe par ton gestionnaire, puis si t'en as pris dans les 5 dernières semaines, ben on t'en donne pas.
Ben écoute, là, moi, j'ai déjà entendu que dans le privé, Mathias, là, il y avait, à un moment donné, un employeur, puis je travaillais dans cette entreprise-là, qui avait décidé d'offrir le déjeuner.
Ah ouais.
Fait que quand t'es arrivé au bureau, t'avais un genre de cafétéria slash cuisine, puis t'avais quelques fruits par semaine, 3-4 rangées de pain, beurre de peanut, Nutella. T'avais une coupe d'affaires pour déjeuner, parce qu'il y en avait qui devaient se lever très très tôt, puis qui avaient à s'alimenter pendant le travail, ok? Mais il y a du monde qui faisait leur épicerie là-dedans.
Oh my God.
Un sandwich au beurre de peanut pour dîner. Des toasts pour déjeuner, puis pourquoi pas le snack de mon enfant le lendemain, puis pourquoi pas un petit fruit pour ma fondue au chocolat. Hey, ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient voler dans leur... Ben, comment dire, je veux dire, c'est un privilège. Là. Les employés avaient un privilège, l'entreprise dépensait pour ça, c'était pas dans le club social. Puis les employés volaient. Fait, est-ce qu'on a beaucoup trop de dépenses au niveau de la papeterie puis du stylo, puis on s'est rendu compte finalement que ça faisait pas de sens, puis il va falloir couper là-dedans?
Je pense que ça se pourrait très bien, puis comme je l'ai dit toujours, là, peu importe le secteur, peu importe le privilège qu'on donne à des employés, il y a toujours du monde qui vont abuser puis qui vont faire en sorte que ce privilège-là va plus nécessairement exister par la suite.
De l'homme, il y a de l'hommerie, hein? Fait qu'on se rend compte que c'est même chez stylo. Hey, en terminant, qu'est-ce qu'on surveille au sport en fin de semaine? C'est un super beau week-end, autant au hockey qu'au foot.
Yes, on va être gâtés. Je commence avec le Canadien en fin de semaine. Samedi, c'est contre les Maple Leafs de Toronto, du côté de Toronto. On sait que les Maple Leafs ont une saison un peu plus difficile, mais ça va être quand même un match à suivre. Là, les Maple Leafs qui ont gagné leurs 3 derniers matchs. Puis on sait que c'est une grosse rivalité, donc gros match samedi soir. Dimanche soir, ça se passe contre les Blues du côté du Centre Bell. Saint-Louis qui a une saison très difficile. On parle de 9 victoires, 12 défaites, 7 défaites en prolongation. Fait à noter important, puis qui va être très intéressant à suivre. Zachary Bauduc qui va affronter son ancienne équipe pour la première fois depuis l'échange entre Zachary Bauduc et Logan Mailloux qui n'a pas nécessairement été fructueux pour l'instant du côté des Blues d'un Saint-Louis. Je me transporte côté NFL des deux matchs les plus intéressants pour dimanche. On parle d'un gros match entre les Packers et les Bears. On parle des deux premières équipes de la division Nord de la National Football Conference. Et match à surveiller pour moi de la fin de semaine, dimanche soir, les Chiefs
contre...
On a
coupé dans les syllabes, nous autres.
Les Chiefs contre les Texans. Deux équipes qui vont se battre pour une place en série. Puis j'ai le goût de te dire, c'est le match de la dernière chance pour les Chiefs. Là. Si les Chiefs gagnent pas, c'est fini. On les voit pas en série. S'ils gagnent, ils ont un peu de chance de finir par rattraper la chose puis peut-être réussir à faire les séries. Côté tirage de la FIFA, de la Coupe
du Monde. Pour la
Coupe du Monde,
qui se déroule en ce moment. Là.
Oui, puis ça s'en vient en 2026 ici au Canada. Donc, on connaît pour l'instant une grosse partie du groupe B où que le Canada va se retrouver. On parle du Canada, du Qatar et de la Suisse. La Suisse, qui est quand même une bonne équipe, là, présentement 17e au classement de la FIFA. Pour le Qatar, c'est une équipe un peu plus faible.
Alors, on a des chances. Il va falloir se battre, mais on a d'excellents joueurs de soccer ici au Canada. Mathias, merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
C'est très, très fun de travailler avec toi, surtout qu'on vient sincèrement d'ouvrir une boîte de Pandore. Dans notre dernier sujet, au niveau des dépenses en entreprise, où les gens se gâtaient et faisaient leur épicerie, j'ai lu dans les dernières secondes que, et je ne pensais pas ça possible, j'aurais même pas pu l'imaginer, qu'à l'ancien travail d'une auditrice, il y a des gens qui déroulaient le papier de toilette pour l'apporter chez eux.
Attends, pas qu'ils trouvaient le moyen de ramasser le rouleau.
Ils ramassaient pas le rouleau, ils se faisaient un rouleau. Comme ça paraît moins, le rouleau est encore accroché.
C'est drôle, mais c'est un peu triste là, que quelqu'un soit rendu au point de dérouler un rouleau pour l'apporter chez eux.
Soit
là.
C'est triste ou c'est pixou.
Ouais, un des deux.
Dans un sens, soit on a envie de les aider puis d'aller leur acheter un 12 rouleaux, ou soit on est en train de déplorer la race humaine à sa plus simple expression. Là.
Dérouler un rouleau, là. Puis souvent...
Mais ça où, en sortant des toilettes, là, ça paraît...
Tu mets dans ta poche. Okay. Souvent, les papiers de toilette d'entreprise, pas des best en plus.
Non, t'es pas dans le 3-4 couches pour le confort. Merci, Mathias, d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
On se retrouve pas lundi prochain. Non. C'est le retour de Jeff Fortin. En fin de semaine, vous êtes pas laissé en reste. Hein. Ce soir, c'est le garage à Dan dès 18h. Matt Marcotte sera là, Audrey Pinchot sera là avec le Rock and Chill. Également Colosse qu'on adore qui va être là en journée. Manquez pas la programmation de la fin de semaine. Il y aura des billets à gagner pour Megadeth au Centre Vidéotron. Jeff sera de retour dès lundi. Sinon, c'est le retour de Gravel qui s'en vient avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. À bientôt, mon cher Mathias.
Yes, bonne fin de semaine tout le monde.
Bonne fin de semaine à tous. Jusqu'à